C'est l'équipe du Greg du vendredi et c'est l'équipe de Greg à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Attention, Candice Roland est avec nous, représente les femmes. Bah oui, attention, Candice.
Oui, bien sûr.
Gros, gros. Ah ben, vous avez un poids important, donc vous avez le droit de mettre n'importe qui sur le banc à tout moment.
Ah,
vous avez tous les droits. Vous avez tous les droits.
Toujours aussi, si elle veut.
C'est vrai.
Ah oui. Très bien. Je vais en user et abuser.
Karim Benani,
bonjour.
Bonjour Karim.
Vous allez bien?
Très bien.
C'est longtemps.
À qui vous allez vous en prendre ce soir?
Personne, je vois pas de personne, ouais, je ne suis qu'amour aujourd'hui.
C'est vrai. C'est
j'espère incroyable. Qu'on se trompera pas sur les quiz. J'ai tout ce que je demande, il n'y a pas de souci. Si vous avez regardé l'émission lundi, je l'ai encore là. Mais après, il n'y a pas de.
C'est marrant, j'ai l'impression que ça tombe toujours sur vous quand il y a une erreur.
C'est étonnant, ouais, parce que j'ai peut-être les réponses en fait.
Anthony Clément est avec nous.
Voilà. Bonjour.
Ça va?
Ça va, encore une fois soufflé par votre intro.
C'est vrai. Plus que par les matchs de l'Olympique de Marseille ou pas? Est-ce que c'est au même niveau que les matchs de l'Olympique de Marseille?
Ah, là, en ce moment, il faut rivaliser. Vous êtes un peu Jean-Luc Gasset de cette année. Vous arrivez, vous remplacez quelqu'un, c'est mieux bon. Qu'avant.
Ouais, faites attention à ce que vous dites. Vous n'allez pas rester longtemps. Il est là, vous l'entendez, Johan Rioux, bien sûr.
Bonjour, plus Jean-Luc que Gasset, mais bon, c'est pas franchement. Vous avez un grand talent. Et vous êtes beaucoup plus rock'n'roll qu'on le pense.
Ah ouais, comme votre chemise. Et puis, évidemment, l'incontournable. Quand on est là ensemble, et c'est Mickaël Thorazzo qui est avec moi. Salut Mickaël.
Salut à tous.
Bon. De nombreux téléspectateurs hier se sont demandé s'il y avait un problème sur leur écran. Ils ont vu un Raphaël Sebaoun passer du bleu au blanc, au vert, au translucide, voire disparaître. On rassure les téléspectateurs, Raphaël.
Si je suis là, c'est que tout va bien. Bon, voilà, tout va bien. Je suis absenté une minute.
Et il a perdu 10 kilos d'heure.
Elle était pas bien.
C'est pas bien.
Il était vert à un moment donné. On était obligé de l'exfiltrer.
Si vous voulez. Il est coulant.
Allez, c'est parti. Le sommaire. À Marseille, il n'y a pas que le docteur Raoult. Il y a le docteur Jean-Louis Gasset. Gasset a-t-il définitivement guéri l'OM? On va se poser la question. 18 ans aujourd'hui pour Zaïre Emery. Juan Zaïre Emery, qui va devenir la tête de gondole du Paris Saint-Germain. Est-ce que ça vous excite, vous? Le Paris du week-end, les paris du week-end, pardon, avec des joueurs, des coachs. Et puis à suivre, du Brest, du Lille, du PSG et Vikash qui nous surprendra certainement avec un choix étonnant venant de sa part dans les paris du week-end.
Ah oui,
vous savez, Vikash, c'est très étonnant. Jeu, bien entendu, pour Karim Benani, un jeu qui sera surveillé par huissier, me
dit-on. Vérifié, j'espère. Donc,
bien sûr, vérifié. Antoine Pinault est là, quoi qu'il arrive, même si c'est une émission qui va être un peu raccourcie parce qu'il y a le biathlon qui arrive à 20h20, vous le savez, ce soir. Donc, c'est l'événement du week-end, bien sûr, aux États-Unis. Mais on aura du Antoine Pinault, on aura le foutoir et on aura le bingo, bien sûr, qui va s'afficher derrière moi. Donc, à tout moment, vous pouvez aller sur le banc, même Candice. Vous pouvez être sur le banc.
D'accord.
Vous avertis quand même, ça.
Très bien. Okay.
Je suis désolé, quand même.
Okay.
Normalement, ça devrait passer. L'indispensable, c'est parti. Quelle soirée on a vécu hier. Est-ce que c'est une grande soirée européenne? Raphaël, montrez-nous ce qui s'est passé hier pour nos clubs français.
Oui, et rappelez que le Paris Saint-Germain a gagné son 8e de finale aller en Ligue des Champions. On a fait le 3-3 côté français avec la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Tout d'abord, hier, l'Olympique de Marseille a largement battu Villarreal dans son 8e de finale aller de C3 avec le but de Veretout sur ce centre de Jonathan Clauss, 1-0. Derrière, quelques instants après, la 28e minute de jeu, le CSC le contre son camp de Mosquera, le pauvre, sur une passe décisive d'un d'ailleurs de ses partenaires. 42e minute, Pierre-Emerick Aubameyang qui marque le but du 3-0 et qui va s'offrir un doublé à la 59e minute de jeu. Ça sent très bon les quarts de finale pour l'Olympique de Marseille avant le match retour qui aura lieu la semaine prochaine. Une autre équipe qui a flambé hier côté français, c'était en Ligue Europa Conférence. Lille s'est imposé 3-0 sur la pelouse de Sturm Graz. Le but de Jonathan David qui ouvre le score. Ensuite, la 51e minute de jeu. Regardez la frappe de Haraldsson et derrière, en renard des surfaces, Jonathan David qui s'offre un doublé, 51e minute de jeu, 71e minute. Le bijou de Jegrova, regardez, magnifique deuxième poteau qui a lobé le gardien. Victoire 3-0 du LOSC. C'est bien aussi.
Lui, il l'a fait exprès.
Il a fait exprès. C'est bien parti aussi pour les quarts de finale. Il y aura quand même un match retour la semaine prochaine pour le LOSC.
Qu'est-ce qu'il y a? Non, il l'a pas fait exprès.
À mon avis, non. Il regarde le ballon comme s'il allait centrer. J'ai pas l'impression.
Parce qu'Aubameyang a plus fait exprès que lui.
Ah bon, d'accord.
Non, je suis pas sûr que Aubameyang ait fait exprès non plus.
Si Aubameyang, il a dit qu'il y a oui.
D'accord.
Je crois
en Aubameyang, non? Non, mais là, franchement, j'ai l'impression quand même qu'il l'enroule pour faire ça, non?
Vika, je vous dis que non.
En tout cas, c'est sûr. Après, s'il l'enroule pour que la Jean Lucarte de l'autre côté.
Ouais, mais il a du talent quand même en Ligue 1, donc moi, j'y crois.
Bon, ok. On n'en est pas là, hein. On va pas débattre sur est-ce qu'ils l'ont fait exprès ou pas. C'est des beaux buts, on les prend, nous, ça nous va bien. Pour une fois, un vendredi, on se gargarise des performances des clubs français. Le Paris Saint-Germain déjà en quart de finale. Deux clubs qui ont déjà mis un bon pied en quart de finale. Est-ce que vous croyez à une épopée d'un club français? Tiens, allez, petit tour de table. Oui, 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 tout le monde nous dit oui, sauf Raphaël Sebaoun, mais bon, il est un peu malade en ce moment, il est pas bien, il est grincheux.
Lucide, lucide.
C'est un grand oui, Anthony, sur un club français qui va nous porter,
oui,
qui va nous faire vibrer.
Après, on est en France, donc une épopée, pour moi, demi-finale, ça suffit pour être une épopée, parce que la barre est assez basse en général avec la Ligue 1 en Coupe d'Europe. Mais quand on voit les matchs d'hier, quand on voit aussi les équipes, on se dit que Lille peut aller loin en Ligue Europa Conférence, de la même façon que Nice, la saison dernière, pouvait espérer aller loin, et ça s'était fini contre Bâle, alors qu'il y avait moyen d'aller plus. Cette équipe de Nice-là, de Lille-là, me semble plus solide, elle a du talent, comme l'a dit Johan, et elle peut vraiment s'impliquer dans cette compétition. Et puis il y a l'OM, qui est totalement transfiguré, et c'est difficile de voir actuellement les limites de l'OM, donc pourquoi pas espérer. On sait qu'en plus, c'est un club qui est quand même porté par cette identité-là et qui sait faire, qui connaît ses soirées, qui sait comment aussi mettre en difficulté un adversaire et créer l'ambiance qui permet les exploits. Donc c'est difficile de dire non, l'OM va s'arrêter en quart de finale. Quand on voit le match d'hier, tout est permis.
Après, tu sais, il y a l'adversité, ça sera le tirage au sort. Ça concerne nos trois clubs français, que ce soit le Paris Saint-Germain, Marseille et Lille. On les a listés, les principaux, on ne pouvait pas tous les mettre et puis on ne sait pas encore qui va vraiment se qualifier. Voilà, on parle beaucoup de Marseille et de Lille parce qu'ils ont joué hier. Il faudra peut-être affronter Liverpool, Leverkusen, la Roma pour l'Olympique de Marseille. Pour Lille, il y a Aston Villa, il y a Unai Emery, il y a la Fiorentina ou encore Fenerbahçe. Voilà, il y a quand même aussi des adversaires redoutables et qui sont peut-être d'un niveau
l'Ajax
supérieur.
Aussi, vous mettez...
Et l'Ajax, oui, exactement, l'Ajax, mais qui
fait pas une grande saison.
Qui fait pas une grande saison, mais voilà, il y a des noms en tout cas pour aller inquiéter nos clubs français.
Bon, épopée, on est d'accord sur l'idée d'aller en demi-finale. C'est une épopée déjà, Johan, vous qui en avez vécu des épopées enfant.
Oui. Non, mais surtout avoir des émotions. Et là, quand même, on a quand même trois clubs déjà quasiment à sauf désastre retour.
Si ça s'arrête dès les quarts de finale.
Non, mais déjà on a trois clubs déjà en quart de finale. Donc déjà c'est à souligner, ça arrive pas tant que ça.
Pas encore fait.
On avait eu des émotions quand même déjà lors la dernière fois quand même avec également le TFC Rennes-Lens éliminé. On avait quand même eu quasiment à la même heure, on avait eu des matchs absolument extraordinaires d'émotions. Moi c'est des émotions. Et hier franchement, moi je crois dans ces trois clubs français, je crois que c'est possible d'aller en demi parce que encore une fois, imaginons même tes petits poussets, mais même un petit pousset il a le droit de rêver. Même nous dans nos vies, est-ce qu'on est des gagnants, est-ce qu'on est forcément des, on a tous une bonne étoile? Non. Et bah pourtant on se lève le matin et on espère avoir une meilleure vie, on espère avoir une grande vie, on espère vivre des émotions. Et ces clubs-là, je m'excuse, ils ont des moyens. Quand tu vois Lille, ce qui est beau avec Lille, c'est qu'ils ont la même philosophie depuis des années. On sait très bien qu'ils ont un formidable entraîneur. Alors parfois ils perdent, parfois ils passent à côté, parfois ils ont des petits moments, mais ils ont toujours cette même manière de jouer. Ils ont Jonathan David, t'as vu qu'il a quand même passé une crise importante cette saison, qui s'est retrouvé sur le banc et qui maintenant depuis quelques semaines il vole de nouveau. T'as Zegrova qui est peut-être l'un des trois meilleurs joueurs du championnat. Quand tu vois Marseille, la qualité, les joueurs sont débloqués psychologiquement. Le Vélodrome en quart de finale, il y aura encore 55 000 fadas. Donc c'est-à-dire que je pense qu'on a les ingrédients pour faire une magnifique recette, pour faire de belles soirées, de beaux repas, et on doit avoir aucune limite. Et même avoir les limites seulement peut-être, non, même pas les limites de l'inconscience, de l'insouciance, il faut y aller. Là, tu te rends compte, t'es en quart de finale de Coupe d'Europe, donc là, si t'y crois pas, t'y crois jamais.
Ok. Ouais. Il est parti fort. Hein. Il est parti très très fort.
Mais on est heureux quand même.
Juste pour compléter ce que disait Johan, parce que c'est vrai que ça fait.
C'est très complet déjà.
C'est très complet. Non, mais sur cette notion peut-être d'avoir trois clubs français en quart de finale des compétitions européennes. Alors, on n'y est pas encore. Et la dernière fois que c'était arrivé, c'était il y a 20 ans qu'on avait au moins trois clubs français. Et il y en avait quatre à l'époque, en 2004. Monaco, Bordeaux, Lyon et Bordeaux, exactement. Bah oui. Mais ça n'est plus arrivé depuis. Vous vous rendez compte, ça fait 20 ans qu'on n'a pas trois clubs français en quart. Mais il faut d'ailleurs qu'ils se qualifient.
Pour vous, Karim, il faut une finale quand même. Très bien.
Ouais, pour moi, l'épopée, c'est finale. Parce que demi, personne ne se souvient d'une demi de Lyon à cette époque-là. Demi, c'est ok, évidemment, mais ça me semble, j'allais dire presque la logique quand on est un club d'un pays fort du football européen. Effectivement, là où je te rejoins, c'est que bon, ces dernières années, on a été un peu sevrés. Moi, sur la Ligue Europa Conférence, dans le listing que nous a donné Raphaël, pour moi, Lille est le favori de cette Ligue Europa Conférence. Quand vous regardez l'effectif de Lille, avec l'entraîneur de Lille, la chance de Lille, c'est d'avoir un entraîneur à l'ADN européen, tout simplement. Et en fait, lui, il a compris ça. J'étais à Reims la semaine dernière et je lui pose la question, est-ce que vous allez faire tourner en Coupe d'Europe? Je voulais tester pour voir. Non, il me dit, bon, on va mettre les meilleurs joueurs, en gros, je vais essayer de voir les petits bobos que j'ai à droite à gauche. Il a fait tourner en poule, mais là, il faut se qualifier. Il me dit, je tourne grâce, c'est compliqué. Il faut, dès le premier match, aller taper à l'aller pour s'offrir un match retour tranquille. Et il a respecté son choix. Quand on regarde l'équipe d'hier, c'est quasiment une équipe type. Ouais. Et je trouve ça intelligent de sa part. Donc moi, je pense, quand je regarde le tableau, Villa, Fiorentina, Fenerbahçe, pour moi, quand je regarde la qualité des effectifs, c'est absolument pas plus fort que Lille. Donc Lille se doit même d'aller en finale de cette Ligue Europa Conférence. Pour Marseille, ce sera plus compliqué parce qu'il y a de l'adversité, effectivement. Liverpool, Milan, Leverkusen, ce sont des clubs vraiment difficiles. Mais après, effectivement, le tirage au sort en quart de finale, si vous jouez contre un Glasgow Rangers, un Benfica sur deux matchs, pourquoi pas? Et ensuite, effectivement, tous les rêves sont permis à partir des demi-finales. Mais après, on parlait très peu du Paris Saint-Germain.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Et honnêtement, moi, quand je regarde le PSG jouer contre la Real Sociedad avec un Mbappé concerné, bon, il faut pas avoir de chance. Si vous tirez City en quart de finale, je vous dis que ça s'arrête. Pour moi, en revanche, contre n'importe quel autre club, il y aura match. Donc Paris a une formidable occasion aussi de s'offrir une belle épopée encore comme en 2020.
Alors, il y a ça, puis il y a quand même aussi parfois les vieux fantômes qui reviennent. Hein. Vous le savez, Vikash, on a vécu tellement des illusions. Voilà, là, vous sentez que c'est la bonne année parce que on s'est enflammé plusieurs fois, et puis plusieurs fois, on est tombé de 2-3 étages à chaque fois avec nos clubs français qui nous décevaient au dernier moment.
C'est ce qui peut arriver, mais moi, les deux équipes sont presque qualifiées avec le Paris Saint-Germain. Moi, c'est aussi que j'y crois pour eux, quoi. J'ai envie qu'ils y croient. J'ai envie que, pour une fois, les équipes européennes aillent loin. C'est ce que je leur souhaite aussi, vraiment. C'est plutôt ça. Je suis un peu un supporter de ces trois équipes pour qu'une fois, on vive quelque chose un peu sympa. On sait très bien que les clubs français sont pas très réguliers. Ils peuvent s'effondrer à tout moment. Même Lille, qui est un grand favori, quand on voit les équipes, elle peut s'effondrer.
Bien sûr, t'as raison.
C'était le cas. Marseille peut jouer l'AC Milan. C'est ça, Marseille peut jouer l'AC Milan. Marseille peut jouer l'AC Milan, par exemple. Là, vous supportez qui quand c'est comme ça?
Le Havre, toujours. Non, mais c'est pas le grand AC Milan. Là, c'est une belle équipe, hein. C'est un gros club qui a plus d'expérience que Marseille, mais c'est pas un grand club aujourd'hui de classe mondiale, donc qui est capable de battre Marseille. Et Marseille à domicile, c'est il y a un vrai coup à jouer. Et le Paris Saint-Germain, c'est le Real Sociedad, c'est une équipe qui est faible, qui est offensivement assez faible, mais ce qu'a fait le PSG, c'est quand même pas mal.
Bingo.
Oh, ouais. Le Havre, j'ai dit Le Havre.
Ah ben, non, mais regardez ce qu'on avait prévu. Et alors là, je suis désolé, hein, je voulais pas vous piéger, mais on avait mis dans le bingo, Zvikash répond à côté de la question. Donc, je vous demande,
vous avez voulu le piéger.
Pas du tout. Vous répondez à côté avec Le Havre, donc je suis désolé, Zvikash. C'est un règlement. Et Dieu sait si vous savez que ça me fait mal de vous voir partir sans moi. Voilà, parce que.
Vous êtes foutu sans moi.
Non, mais vous reviendrez vite, Vikash. Petit mot sur l'indice UEFA, parce qu'on en parle souvent. Voilà, là, il n'y a que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Bah,
la bonne nouvelle, c'est que cette place de 5e à l'indice UEFA, elle est confortée. Et ce qui veut dire qu'on est presque arrivé dans l'idée. Alors, ça, c'est cette saison. Ça, c'est le coefficient UEFA. C'est que les clubs espagnols, ils sont quasiment tous éliminés. Mais quand on prend le coefficient UEFA en réunissant les 5 dernières saisons, c'est ça qui compte pour le nombre de qualifiés français dans les différentes Coupes d'Europe. On était déjà sûr la saison prochaine d'avoir 4 clubs français en Ligue des Champions. Enfin, le dernier, le 4e qui va en barrage, enfin en tour préliminaire, eh bien là, on s'assure aussi pour les saisons suivantes la même chose avec 4 clubs français en Ligue des Champions. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Sortent, en fait.
Et exactement. Et ça, c'est fait. Et la semaine prochaine, et c'est terminé.
Mais ce qui est bien aussi, c'est que c'est 3 clubs qui sont calibrés pour la Coupe d'Europe qui disputent. Parce que c'est vrai que si Marseille s'était qualifié en Ligue des Champions, je suis pas sûr, de toute façon, ça serait très bien passé en phase de groupe. Mais là, on se dit que Lille, ils sont à leur place en Ligue Europa Conférence, et c'est leur statut. Marseille, ça correspond bien, et Paris est bâti pour la Ligue des Champions. Donc, c'est 3 équipes à leur place. Et c'est ça qui incite à l'optimisme.
Non, mais là, l'esprit, pas. Ouais, vous souhaitez la défaite de la LAC. Non, on veut que les Français aillent plus loin, c'est tout.
Oui, bien
voilà,
sûr,
on s'en fiche.
C'est pour préciser qu'on
va faire un parcours, la
Jacques,
on va en finale.
C'est encore mieux pour nous. Ouais,
bon. Attention, vie cachée de retour et on peut envoyer le hat-trick maintenant, les 3 actions frissons de la soirée. C'est parti.
Et heureusement que Vikash est revenu, comme ça je peux avoir l'analyse de Vikash. Numéro 3 de ce hat-trick, l'égalisation du Slavia Prague par le défenseur tchèque David Doudera. Regardez, ça arrive, boum, reprise de volée tranchée. Ah ouais.
C'est magnifique.
Magnifique.
Il y a peu de frappes comme ça en Ligue 1 de l'extérieur de la surface de réparation sur les deuxièmes ballons. Les joueurs hésitent et décalent sur les côtés, là je trouve ça intéressant.
Et attention, le Milan n'est pas encore qualifié, il n'y a que 4-2 et attention au Slavia Prague au match retour.
Très belle musique.
C'est pas moi qui l'ai choisi. Et on la revoit, on s'en délecte de cette frappe et de ce but. Et on va passer au numéro 2 de ce hat-trick, le doublé pour le Canadien Jacob Schaffelberg, le but du 2-0. Regardez, avec Nashville, c'était face à l'Inter Miami de Messi. On verra d'ailleurs tout à l'heure le but de Messi et le but de Luis Suárez dans le foutoir.
C'est Dirk Kuyt,
voilà. Mais lui, il s'appelle Jacob Schaffelberg.
Il est pensé, je vais chercher. Il a pris tout son temps quand même. Il n'y a pas beaucoup de pression.
Mais là, c'est fait exprès. L'avicage, c'est fait exprès. Enroulé exprès, là.
Ah oui, c'est fait exprès. Ah, c'est bon.
Numéro 1 de ce hat-trick, l'égalisation de Goa face à Manipur. C'est en Inde, grâce à Nessio Fernandez. Splendide bicyclette. Ah,
oui. Ça, c'est la famille, ça.
C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1 du hat-trick, c'est ça.
Salut, ça.
Avec double poteau rentrant.
Double poteau rentrant. Magnifique. Devant un public en délire.
On remercie Luc, en tout cas, pour le choix musical. Voilà. Oui, peut-être, merci. D'ailleurs, de musique d'origine indienne. Hein, je ne sais pas.
C'est pas, il ne m'a pas dit, Luc, qui a monté ce hat-trick. Allez, un dernier ralenti. On a les droits et pour pas cher.
On voyage dans cette émission.
On passe privé. Ben oui, mais c'est ça. Mais il n'y a qu'ici que vous voyez ce genre de but. Ça va être très bien. Allez, on revient à l'Olympique de Marseille. Hier, après la victoire fracassante, j'ai envie de dire, de l'OM face à Villarreal, Jean-Louis Gasset s'est exprimé. Et au-delà du résultat, il a voulu parler de sa satisfaction concernant le contenu. Écoutez-le.
On avait décidé d'aller les chercher, de mettre de l'intensité pour mettre le public avec nous. On a pratiquement tout fait de bien. Mais surtout techniquement. Techniquement, on a fait des renversements de jeu. Tactiquement, on a bien maîtrisé les deux attaquants excentrés et le petit Ndiaye qui venait nous faire la supériorité. En première mi-temps, c'était parfait, mais dans l'investissement, parce qu'ils ont pressé, ils ont fait des efforts.
Jean-Louis Gasset, c'est au-delà, hein, voilà, donc il y a le contenu, les efforts, et puis il y a 16 buts en 4 matchs, c'est impressionnant. A-t-il définitivement guéri l'Olympique de Marseille? On y va, petit tour et petite ardoise. Que nous dit Candice? Non, c'est en cours de guérison, voilà, encore fragile. Oui, ici, donc, pour son intérêt. Oula, pas que Gasset.
Il n'y a pas que Gasset.
C'est quoi le médicament?
Bah, c'est, il n'y a pas
de... Vous allez nous expliquer, Oui, et ça sent bon, pour le malade qui sait de quoi il parle. Vous étiez au Vélodrome hier, Candice. C'est pour ça que je voulais vous préserver tout à l'heure sur le thème précédent. Vous voyez, je vous ai préservé.
Je vais dire un mot sur l'épopée. Ouais. J'y crois.
L'épopée marseillaise.
L'épopée marseillaise, oui.
Pourquoi vous mettez, c'est en cours de guérison. Vous ne les sentez pas après le match que vous avez vu. Vous étiez au Vélodrome.
Très agréablement surprise. J'aurais jamais mis un copec sur un 4-0, un match abouti. Alors en face, on peut dire ce qu'on veut, même si Marcelino a sorti un peu les voiles, c'est ma faute. Et il a dit, on a des circonstances. Alors, pour rappeler que l'équipe avait été malade aussi en début de semaine, bon, peut-être qu'il y avait un petit peu des restes, mais en attendant, c'est une victoire aboutie et évidemment très convaincante. Je dis c'est en cours parce que c'est une première réponse à porter. On disait, attention, Villarreal, c'est pas Clermont, c'est pas Montpellier, c'est pas Shakhtar. Donc déjà, la réponse, elle est là, elle est convaincante maintenant. Il va falloir encore un petit peu plus, avoir un peu plus de, voilà, de plus prendre deux buts, par exemple, voilà, enchaîner des matchs sans prendre deux buts. Et je veux voir encore justement ce collectif se trouver encore, voilà, être un peu plus, encore un peu plus fluide, qu'il n'y ait plus forcément ces petites absences. J'attends pas forcément, on est au mois de mars, hein, j'attends pas qu'on ait un jeu magnifique et huilé et jusqu'à la fin de la saison, mais voilà, quelques petites erreurs à gommer. Et là, oui, je dirais que l'équipe est guérie. Maintenant, c'est sûr que forcément, après, il y aura des échéances après la trêve qui vont.
Non, mais là, ils enchaînent monter. Nantes, par exemple.
Mais complètement. Je suis plutôt confiante pour les Marseillais, ça c'est sûr. Complètement guérie, définitivement guérie. Je trouve que c'est un peu loin. On est en bonne voie pour les Marseillais. Définitivement, voilà, j'attends encore un tout petit peu, mais évidemment,
les vrais tests, ils vont arriver. Alors déjà, cette Ligue Europa et ce match aller face à Villarreal était un bon test pour l'Olympique de Marseille. Mais les vrais tests, ils vont arriver en Ligue 1, parce que voilà, Marseille joue aussi sa qualification pour une Coupe d'Europe. Et alors, ce week-end, ce sera Nantes. Mais après le match retour contre Villarreal, regardez l'enchaînement. Rennes, il y a Paris, il y a Lille. Et il y a Nice, qui sont tous des adversaires directs pour disputer une Coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille. Et si Marseille, bon, a priori, va se qualifier pour les quarts de finale, le quart de finale aller sera entre le Lille-Marseille et le retour sera après le Marseille-Nice. Donc c'est un calendrier démentiel qui attend l'Olympique de Marseille.
Alors, mais il y a aussi ce que dit Jean-Louis Gasset. Alors, il y a les résultats, Raph, en effet. Ça sera peut-être compliqué, Anthony, en termes de résultats. Mais il y a quand même le contenu, il y a une évolution. On sent un épanouissement même. Je pense à Pierre-Emerick Aubameyang, par exemple, en ce moment.
Oui, bien sûr, mais quand on dit que l'OM est guéri, ça ne veut pas dire que l'OM va plus perdre un match de la saison. Mais ce qui est certain, c'est que l'OM n'est plus malade.
Et l'OM, quand on se rappelle de son état à Brest il y a 3 semaines, ce qui n'est pas grand-chose, mais il est totalement méconnaissable. Et ça, c'est la patte gassée. Vous avez parlé d'Aubameyang, mais limite, Aubameyang, c'est pour moi le joueur qui a eu le moins besoin d'un changement d'entraîneur, parce que par exemple, il a toujours marqué en Coupe d'Europe et il a quand même toujours gardé une certaine continuité de performance. Mais quand on voit par exemple l'impact d'Ismaïl Assar, le repositionnement d'Illimani Ndiaye dans l'axe, qui n'est plus du tout le même joueur, qui est enfin épanoui, parce que c'est ce qu'il voulait jouer à ce poste-là, on se dit que voilà, les joueurs sont guéris et le rayonnement collectif va beaucoup mieux aussi. Et je pense que c'est une équipe qui progresse de match en match, parce qu'on se disait que cette équipe-là, au début, contre Donetsk, que c'était quand même des choses très simples, un jeu direct. Là, elle a prouvé sur les derniers matchs qu'elle savait prendre le jeu à son compte, qu'elle savait faire autre chose. On a vu des combinaisons hier qu'on n'avait pas vues avant. Et en fait, tout ce qu'on voit, moi, je trouve que c'est vraiment très flatteur pour Gassé, mais c'est aussi très gênant pour Gattuso, parce qu'on se demandait vraiment, ça se demandait ce qu'il a fait. Et alors, en janvier, il avait beaucoup d'absents et beaucoup des joueurs qui brillent aujourd'hui n'étaient pas là en janvier. Mais moi, j'ai jamais vu jouer l'OM comme ça en décembre, même pendant la bonne période de Gattuso avec 4 victoires d'affilée. Je les ai jamais vus atteindre ce rayonnement. Là, on est à la manière. Avec Gattuso, on l'a jamais eu. On
a vu des matchs agréables, quand même en Coupe d'Europe.
Il y a des matchs agréables, mais jamais ce rayonnement-là, cet impact. L'Ajax qui était aussi dans une partie difficile.
Sur un fil, au Vélodrome contre Brighton, l'Ajax c'était sur un fil.
Et jamais, même contre Brighton, ils mènent 2-0, mais ils se font rattraper 2-2. Avec Gattuso, ce problème-là, à Lorient, une super première période. Et finalement, on sortait de ce match-là en disant qu'ils n'étaient pas du tout guéris. Ouais. Là, c'est quand même, il y a une plénitude qu'il était impossible de soupçonner il y a 3 semaines.
Voilà. Avec cette victoire, parce que c'est ce que disait Candice tout à l'heure, voilà, cette victoire, elle est marquante, Raphaël, en fait.
Oui, marquante pour plusieurs raisons, parce que déjà pour Jean-Louis Gasset, qui bat quelques records, et puis également parce que, eh bien, vous le voyez, l'OM n'avait plus remporté une rencontre à phase d'élimination directe par 4 buts d'écart en Coupe d'Europe depuis 1998. C'était face à Olomouc, c'était une victoire 4-0 de cette équipe de l'Olympique de Marseille. 2017, ça c'était une autre date, puisque l'OM devient le premier club français à s'imposer par 4 buts d'écart contre un club espagnol en Coupe d'Europe depuis, ça c'est un mauvais souvenir, le Paris Saint-Germain en 2017, puisque derrière il y avait eu la remontada. Et puis toujours concernant l'OM, qui devient le premier club français à s'imposer par 4 buts d'écart en 8e de finale de C3 depuis Nantes, qui l'avait fait le 22 novembre contre Sion en 1994.
Il n'y a jamais les premiers, je crois, hein, du côté de Marseille. Oui, c'est ça. Vikash, vous, là, les joueurs, quand on parle de guérison, vous les sentez guéris, ouais, vous mettez oui, il n'y a pas de risque de rechute ?
Si.
Ah, il y a toujours un risque.
À mon avis, si. Enfin, pas rechute, mais ils vont perdre des matchs. Et ça dépendra de... Alors, Nantes, s'ils perdent, ce sera catastrophique. Mais s'ils perdaient après, plus tard, Paris ou Rennes, ça dépend s'ils enchaînent deux défaites de suite, par exemple. Dans quelles conditions et qu'est-ce qu'ils vont faire de cette défaite, et est-ce qu'ils vont s'effondrer ou pas? Est-ce que nous, on va aller commencer à dire que ça y est, ils sont pas guéris, ils sont en train de... C'est la catastrophe. À mon avis, moi, je remarque que sur Naples, qui a changé 2 fois d'entraîneur, Lyon, qui a changé 2 fois d'entraîneur, et les 3 se sont relancés assez facilement, comme si, en fait, on peut pas faire pire, quoi. Voilà, on change 3 fois d'entraîneur. Le mec qui arrive, il est un peu sympa. 2 fois des entraîneurs adjoints, longtemps. Et Sage, qui venait du monde amateur, plutôt assez cool, qui met des choses assez simples en place, qui est plutôt sympa avec les joueurs. Et il se passe quelque chose. Déjà, le changement, 3 fois de suite, donne automatiquement un truc où les joueurs, ils n'ont pas trop le choix. Quoi. On peut pas, c'est pas possible de jouer aussi mal et de continuer. Donc, il y a déjà une réaction qui arrive automatiquement. Et puis après, il faut peut-être enchaîner. Le système d'hier de Gassé, il est plutôt simple, avec Ndiaye qui prend l'axe et puis les 2 autres qui vont sur les côtés pour défendre. Et offensivement, ils attaquent plutôt à plus. Donc voilà, moi, je suis content, j'aime bien.
Vous êtes pour le choix, il faut essorer 2 entraîneurs avant qu'il y ait un rebond. Quoi. Avant, c'était 1 entraîneur, il y avait un choc psychologique. Bah non, mais en tout cas, là, on sait qu'il en faut 2 maintenant.
Remarque, je pensais à ça comme ça. L'instant, là, ça m'est venu.
Une fulgurance. Vikash est un génie. Il a des fulgurances comme ça, des apparitions, des visions qui viennent.
Gattuso faisait partie du plan. Donc voilà.
Par exactement. C'est quoi le médicament, Johan ?
Non, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, ce que fait Gasset est formidable et c'est magique. Mais il y a un moment donné, quand même, quand contre le Shakhtar, t'es mené 1-0 au retour au Vélodrome, il y a un moment donné aussi, les joueurs sont face à leurs responsabilités. Alors moi, je veux bien que Gasset, évidemment, formidable, et il a montré dans le passé déjà, avec Laurent Blanc notamment, extraordinaire, mais je ne peux pas oser croire que parce que Gasset est là, soudainement, Sarr se met à formidablement bien jouer, Ndiaye aussi. J'espère aussi qu'eux ont de l'amour propre, ont aussi un talent, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un qui les prend par la main pour leur dire comment jouer.
Si, je crois qu'il les met au meilleur endroit, en tout cas.
Oui,
il y avait un problème de positionnement pour certains.
Mais ces joueurs-là, quand même, avaient quand même du talent. Et
c'est pas la faute des coachs si Sarr, si Ndiaye ont été quand même très très faibles
depuis des mois.
C'est pas seulement parce que Gasset leur dit je crois en toi et Gasset encore une fois non, il est formidable.
Non, c'est je te mets au bon endroit, je te fais faire ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire. C'est important quand même.
Moi je pense justement Johan que ces joueurs là dont tu parles qui sont de jeunes joueurs, Idriss Ndiaye beaucoup de pression sur ses épaules, lui le fan de Marseille, on en a parlé, il avait besoin d'affect. Tout de suite. Il a traversé des mois de doute. Et avec Gattuso, c'est pas l'entraîneur qui, je le connais bien, qui donne le plus d'affect non plus à ses joueurs quand les joueurs ne le rentrent pas sur le terrain. Et en fait, je pense que Jean-Louis Gasset, en arrivant, il a fait ce travail-là psychologique avec eux, presque comme un psy finalement avec ces joueurs-là, qui étaient plus bas et qui étaient mal mentalement. Parce que c'était des bons joueurs de foot. Ismaïl Assar est un bon joueur de foot. Et on l'a vu encore hier, mais il avait besoin de confiance. Il y avait Ndiaye pareil. Donc d'abord, ce travail-là a été fait par Gasset. Après, là où je rejoins Vikash, c'est qu'il n'a pas révolutionné tactiquement le jeu de Marseille. En revanche, il a été simple. Il a fait sexy, précis, concis. C'est-à-dire que ça permet à l'OM de savoir où on va. Et quand tu marques 16 buts en 4 matchs contre deux équipes européennes et deux équipes de Ligue 1, on peut pas dire que c'est du hasard non plus. Donc moi je trouve qu'effectivement il a définitivement guéri l'OM, qu'il a permis à l'OM d'avoir de nouveau de l'ambition, ce qui n'était plus du tout le cas il y a 3 semaines. Souvenez-vous, il y a 3 semaines on enterrait les chances de l'OM et en Coupe d'Europe et en Ligue 1, pas forcément à juste titre d'ailleurs parce qu'il restait des matchs. Là il permet à l'OM de rêver de nouveau à un top 4, pourquoi pas, si les matchs se passent bien, et à un quart de finale de Coupe d'Europe qui arrive. Franchement, personne n'aurait misé ça il y a 3 semaines, 1 mois, et il permet à Marseille aujourd'hui d'être beaucoup plus souverain à domicile. On le voit parce que les matchs dont tu parles en Coupe d'Europe avec Gattuso, franchement c'était sur un fil. Hein. L'Ajax ça gagne, mais ça gagne parce que le gardien fait n'importe quoi.
Oui, mais il y a des spectacles, des occasions.
Oui, mais un peu n'importe comment, désordonné. Là, il y a un vrai plan de jeu. On le voit et les joueurs ont l'air de comprendre le plan de jeu de Gasset et nous aussi. Donc ce qui prouve que ça
arrive quand même, franchement, quand on a tous vu ce match absolument lamentable. C'était pas que Gattuso. Il y a un moyen, les joueurs sont sur le terrain aussi. Ils ont fait comme n'importe quoi dans l'attitude, dans le comportement.
Il y a un problème à ce moment-là, c'est par exemple Gattuso dit à Brest avant et après, je suis pas préparateur mental, c'est pas moi qui vais les remonter. Ça lui a fait très mal. Parce que si le coach n'est pas le préparateur mental, qui l'est? Alors que Gasset arrive et dit résolument le contraire. Je vais soigner les
attaquages. Gasset, il est arrivé, il a fait peu de séances et ça change quelque chose. Ça veut dire que son arrivée, son discours, il apporte quelque chose, évidemment, juste la confiance, quoi. C'est ce qu'on dit aux joueurs est important. On adhère, on n'adhère pas. C'est une histoire qu'on raconte. Hein. On les manipule. Hein.
Parce que nous qui avons été joueurs, Vika chez moi, franchement, c'était important pour nous d'avoir un entraîneur.
Je note votre slogan et je voudrais que Johan se l'écrive. Sexy, précis, concis. Vous avez dit,
on l'a pas assez repris ce slogan.
Sexy, précis, concis.
Il est tout sur le sexy, Johan.
Parce que précis,
précis et concis non plus.
Sexy, bah oui, en fait.
Raphaël. Et vous parliez des joueurs. Il y en a un, en tout cas, c'est le symbole de cette équipe de l'Olympique de Marseille. C'est Pierre-Emerick Aubameyang, qui est désormais le seul meilleur buteur de l'histoire de la C3 depuis 1971, devant Henrik Larsson, légende du football suédois, ou encore Radamel Falcao, Huntelaar est dans ce classement. Donc ça, c'est la première indication. La deuxième indication, c'est qu'il a égalé Didier Drogba sur une saison de Coupe d'Europe en étant meilleur buteur sur une saison. 11 buts, il va le dépasser peut-être s'il marque un autre but d'ici cette édition européenne. Voilà, c'est tout à fait admirable.
Et c'est marrant parce que depuis 2 mois, on parle plus du tout d'Alexis Sanchez. Vous avez remarqué depuis
on en parle encore hier.
Ah bon?
On a fait un thème.
Avec les supporters?
Non, mais bien sûr, aujourd'hui, il faut oublier.
On a le grand attaquant à l'Olympique de Marseille, Candice.
Mais oui, non, mais après, il y a toujours cette succession de savoir est-ce que, voilà, Aubameyang va aller Alexis Sanchez. C'est pas du tout le même profil, c'est pas du tout régularité ou quoi. Mais voilà, maintenant, il marque, il est dans une croissance folle et dans une forme parfaite, donc très bien. Mais voilà, le débat, laissons l'histoire à Alexis Sanchez, c'est passé, il faut tourner la page et Aubameyang gravit l'OM, donc c'est très bien.
Aubameyang, sexy, précis, concis.
Exactement.
Allez, c'est parti, c'est le jeu, sexy aussi.
Marseille.
Attention. Marcelino. On va jouer à quoi? Au démineur. Ah. Donc, je vous rappelle le principe. 16 noms vont apparaître derrière moi. Et il y en a des faux, faut pas tomber dessus. 16 noms apparaissent derrière moi. Vous devez retrouver les 11 qui ont remporté une C1 et une C3. Ils ont gagné la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Si vous faites une erreur, vous êtes éliminé. Okay. Voilà, il faut trouver les joueurs qui ont gagné les deux Coupes d'Europe.
La C1 et la C3.
C1 et C3.
Très bien, je commence. Alors,
Candice, oui, vous allez commencer. Voilà. Tiens, voilà, parce que je vais me rattraper de ma bourde. Donc voilà, vous commencez. Voilà.
C'est pas moi qui termine.
Allez, Eden Hazard.
Eden Hazard, il a gagné. Vous vous rappelez avec qui ou pas?
Chelsea.
Avec qui?
Chelsea,
les deux avec Chelsea.
Le Real.
Ah oui, pardon.
Chelsea, Real, en effet.
Mais il n'y a pas de Chelsea, la Ligue des Champions.
C'est une bonne réponse.
C'est un Raphaël.
Oui. John Terry.
John Terry.
Chelsea, c'est un C3.
C'est un C3 avec Chelsea. Il est sûr de lui. Rafou, évidemment. Il est fort. Les cages d'or,
Rakitic.
Attention, ne pas tomber sur une mauvaise surprise.
Séville et Barça.
Séville-Barça, ouais. Eh ouais, Séville et Barça. Non. Barça, la Ligue des Champions. Séville.
Non.
Eh bien, si, c'est une bonne réponse. Oui. Barça-Séville, c'est une bonne réponse, en effet, Vikash. Yon Ryu.
Pedro avec le Barça et Chelsea.
Pedro avec le Barça et Chelsea.
Oui, c'est sûr
et certain. Il est facile. Il est sûr et certain, sûr de lui. Attention, c'est au tour d'Anthony Clément.
C'est Julien Rodriguez ou c'est James Rodriguez?
C'est James.
Mais... je veux dire, Dani Alves.
Dani Alves. Avec, vous les avez ou pas?
Séville et Barcelone.
Séville et Barcelone, bonne réponse. Bon, facile et tout. Il est là pour gagner. Il a mis une pression énorme sur la régie. Les huissiers de justice sont là pour tout vérifier, checker. Bien sûr, tout le monde attend maintenant la réponse de Karim Benani.
Je vais dire Ricardo Carvalho. Avec Porto.
Il a gagné les deux avec Porto?
Oui, je pense. Oui.
Mais oui, Karim, bien sûr. Il pense, il a raison. Très, très bon. Très, très bon. Je rappelle que nous en avons encore 5 faux. Il y a 5 mauvaises réponses qui se cachent encore. Pour l'instant, vous les avez toutes évitées. C'est au tour de Candice de reprendre la main.
J'ai envie de dire James Rodriguez.
Pas Julien Rodriguez, hein. James Rodriguez, en effet.
D'accord.
Qui a gagné avec le Real, mais ouais. La C3, ça serait quoi?
Avec
Porto, il a gagné la C3, bravo Candice, c'est bon, ça passe. Ouh là là, mais alors qui? On en a 5 mauvais encore, vous jouez chez vous aussi. Raphaël Sebaoun est en danger.
C'est quel call? C'est Ashley ou Andy?
Ashley Cole. D'accord. Il reste 4 bonnes réponses, 5 mauvaises. C'est de l'autre côté.
Je vais rester sur le filon de Chelsea, John Obi-Mikel.
Chelsea.
Bah, c'est un C3.
Oui, bien sûr. Bah, toujours la même équipe, quoi.
Ouais.
Bah oui, Raphaël, mais bien sûr. Mais faites-vous confiance, Raphaël. Ouais. J'ai vu le doute. Mais
c'est ce que j'ai fait.
Mais bravo.
Je suis resté sur mon...
Vikash Dorasso est avec nous.
Olic.
Olic.
Je sais pas avec qui. Bayern, la Ligue des Champions, je me souviens. Contre Lyon, il gagne en demi-finale.
Ouais. C'est Olic.
Il gagne la Ligue des Champions. Il faut gagner la Ligue des Champions, pas gagner une demi-finale. Hein.
Ouais, mais je me souviens de la demi, moi.
Il n'a pas gagné la finale.
Il n'a pas gagné la finale.
Mais il a gagné avec un autre club.
Je suis désolé. Mais il a gagné avec Moscou, en effet, la C3, mais malheureusement, pas de C1 pour lui. Olic, en effet. Je vous rassure, Vikash, on a été nombreux quand on a préparé le jeu. Avoir sauté avec Olic. Hein.
Ouais.
Vous n'êtes pas le seul. Yon Ryu.
Il y a 4 faux encore. 1, 2, 3, 4 faux.
4 faux, 3 bons. 4 faux, 3 bons. Allez, Yohan, il faut
David,
y aller.
David Luiz.
David Luiz.
C'est le filon, c'est
David Luiz, avec le Paris Saint-Germain, il n'a rien gagné. Non,
il, a
avec
fait, il a fait Chelsea, il a fait.
Ah, ouais.
Il y a Benfica aussi.
Avec Chelsea, en effet, Yohan, c'est bon, ça vous sauve. Avec Chelsea, gagne les deux. Très bonne réponse, Yohan Ryu. On va peut-être y aller. Anthony.
Diego Costa.
Diego Costa, vous êtes sûr de vous?
Atletico.
Diego Costa.
Non. Oui, oui.
Ah oui, Diego Costa, vous êtes sûr de vous? Chelsea, Atletico.
Non, ouais, j'aurais dit ça.
Attention, c'est 1 et c'est 3, malheureusement, ça vous fait sauter.
On peut faire le point là, il reste quoi là?
Alors là, il en reste 3 mauvais.
Et
2 bons.
Allez, vas-y, on plie.
Michael Owen, il gagne la C3 avec Liverpool. Est-ce qu'il gagne la C1?
Oui, moi je me rappelais que de la C3.
Liverpool, il est plus à Liverpool après quand Liverpool gagne. Non, je vais pas dire lui et je pense que je vais dire Juan Mata.
Vous dites Juan Mata.
Ouais, avec
que
Manchester,
lui, c'est sûr.
C3 Manchester, ouais. Et Chelsea peut-être.
Ouais. Eh ben non, c'est avec Chelsea qu'il a gagné les deux d'ailleurs.
Ah.
Ouais, c'est une bonne réponse.
En fait, il y a que les mecs de Chelsea qui ont fait le doublé.
Non, pas du tout. Tout à l'heure, on avait du Barça Séville avec Alves, Rakitic, Rodriguez avec. Non, on en a eu d'autres.
Chelsea et les autres.
Très étriqué ce jeu.
Candice.
Bah, la balle de match.
Bah, je vais sur Ashley Cole.
Vous donnez Ashley Cole. Si vous avez Ashley Cole, évidemment, vous serez la grande gagnante du jeu.
Non, c'est du collectif.
Non. C'est vous. C'est pas si c'est la bonne réponse. Il n'y a plus qu'une bonne réponse. Et Ashley Cole, pour Chelsea, c'est ça. Vous êtes toujours dans le filon.
Ouais, mais c'est le filon, là. Du coup, c'est peut-être un peu long, le filon, là.
Mais vous avez raison. Vous avez raison.
C'est normal.
Bravo.
Il était facile.
Et Bueno Saviola n'ont jamais gagné la C1.
Ouais, ça c'est.
Ouais. Eh oui, ils n'ont gagné que la C3. Très très bon jeu en tout cas. Ça a été un bon jeu. Je vous ai trouvé pas mal. C'était un jeu plutôt intéressant. Karim, je suis désolé.
Si j'ai fait encore.
Il n'y a pas de contestation possible. Tout s'est bien passé. C'est un jeu.
Voilà. Ah bon, bon c'est voilà. La normalité. Hein.
Mais pas... Ah bon, d'accord, c'est ça.
Et ça fait plaisir quand c'est vous, c'est normal, visiblement.
Dans un instant. Les paris du week-end. Nous aurons également vu Dimitri Payet avec le foutoir. Warren Zahir Henry qui fête son anniversaire, qui devient la tête de gondole du Paris Saint-Germain. Est-ce que ça vous excite? Antoine Pinot est là, bien sûr. Il y a le zapping et puis le biathlon, c'est l'événement. Vous voyez l'image. Voilà, on est aux États-Unis. Attention, on mâche des chewing-gums. On est en mode American pour le biathlon. C'est à 20h20 pour le relais homme. On a le sprint femme également ce soir. On ira faire un petit tour. Voilà, prendre la température tout à l'heure avec Tanguy Carwas pour voir comment ça se passe aux États-Unis pour notre équipe de France de biathlon, c'est l'événement de la soirée. Vous restez avec nous, à tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg avec une équipe épatante. Candice Roland mène de mal à mettre cette émission. Avec vous, il y a Karim Benani, il y a Anthony Clément qui s'est régalé. Qui s'en régale en ce moment avec cet OM de Gassé. Il y a
Johan
ouais. Rioux qui est en train de faire quoi de...
Ce que je prépare la prochaine réponse.
D'accord. On a un peu le temps, Johan, rassurez-vous.
C'est vrai.
Vicage Dorasso est avec nous également. Raphaël Sebaoun est en bonne santé. Bon, ben, tout va bien, franchement, tout va bien. Le biathlon, c'est ce soir, 20h20, on vous l'a dit avec la course. Attention, yes. C'est dès 20h20 pour le relais homme. On est aux États-Unis, on vous remontrera une image tout à l'heure. Donc on m'a dit de vous préciser, voilà, il fait jour parce qu'il y a un décalage horaire aux États-Unis. Vous voyez, c'est la magie de la télévision. Voilà, fuseau horaire différent, Utah, Soldier Halo, et voilà. Ah, Anthony, on vous apprend des choses. Ben, il y a un décalage
horaire. On était en Inde tout à l'heure, ouais. Dans l'autre sens. Là, je pense qu'il y a un peu de jet lagué là, du coup.
On voyage. Cette émission vous fait voyager, c'est en même temps une émission culturelle. Et c'est pas terminé. Regardez bien le zapping de William Gonsalves, Lopez Gonsalves, qui nous a préparé quelques petits bijoux. Regarde.
L'espace dont il raffole pour Harit qui doit faire son choix maintenant. Il a fait le bon avec Aubameyang, le petit centre piqué. C'est bien le centre. C'est un centre tir et c'est un doublé. Un de plus en Coupe d'Europe pour Pierre-Emerick Aubameyang. 4-0.
Le ballon au patron. Hop, ça sort fort.
Mike James sur ce shot. Va-t-il? Oui.
C'est bon.
Mark James est le meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague.
Bravo.
Un moment d'histoire à Castromédecin avec Mark James qui dépasse officiellement Vassilis Panoulis et devient le meilleur marqueur de l'Euroleague.
Two point game. Jokic a couple of spins. Jokic the hook. No, he leaves it for Gordon. What a pass.
Let's go!
Second, Pacers have a chance. Up ahead, Nesmith.
The basketball, he wanted to go in a broken floor situation, and I mean, Anthony Edwards,
he hit his head under the backboard. Il y a la sortie du gardien ukrainien, l'intervention devant Goldson qui se plaint d'une faute qui reste au sol. Tavernier qui ramène le danger avec Fabio Silva, le centre et le but incroyable. Traditionnel fou avec ce but de John Sterling qui réalise lui aussi une énorme première période qui a posé des problèmes incessants à Orsnes et qui vient glacer à nouveau l'ambiance de l'Estadio d'Alouse.
c'est pas facile de passer du GT où elle roulait le week-end dernier au Qatar à la monoplace, mais c'est un défi remporté par Dorian Pain qui signe son tout premier succès en monoplace. Cathy, magnifique. Elle tout remporte la première course de sa carrière en F1 Academy.
Five and one in the UFC with five straight insane, sensational finishes.
155, absolute, the official weight for Benoit Saint-Denis.
Absolute killer. It does.
C'est Grosva! Quel but! Quel but de C'est Grosva! Le pied magique du Kosovar. Oui, il faut aimer ce joueur de joueur. Oui, il faut aimer C'est Grosva qui nous régale ce soir de ce but absolument magique. 71e minute, Lille 3, Sturm Graz 0.
Il y a moyen d'utiliser ces trois quarts.
On est d'abord fixé peut-être voilà, avec les jeux d'avant. Non, c'est une combinaison magnifique. Attention, ça peut aller au bout avec un essai en première main pour Charles Moukses en bout de ligne.
Ah, ils m'ont
magnifique
donné raison.
Essai. C'est Moukses qui marque. Mais c'est un superbe chef-d'œuvre collectif offert par nos Bleuets. Quelle action! Eh bien, quand on vous disait qu'ils avaient bien travaillé, c'est une répétition générale. Benoît Babi doit se friser les moustaches avec des garçons comme ça qui nous régalent.
On se rapproche. Près de deux heures d'attente. Juju, t'as prévu quoi dans l'avion là?
Yes.
Belle sieste ou
champagne?
Champagne.
C'est tout bon. Let's go.
Et merci à William Lopez Gonzalez qui nous régale avec son zapping. Oui, vous avez voyagé et vous allez maintenant rigoler puisqu'on appelle Monsieur Antoine Pinot. Attention. Mais il y a tout dans cette émission. Il y a du voyage, il y a de la culture, il y a de l'humour, il y a tout
oui,
ce qu'il faut.
Oui, je ne fais pas trop voyager. Il y a
du lourd. Bon, généralement dans le KGB d'à côté. C'est à peu près ça.
C'est mes kilomètres à moi. Voilà. Enfin, sur l'appli santé, j'ai pas beaucoup de pas.
Et t'en as bien roulé d'ailleurs.
Oh là.
Non, mais enfin, par rapport à la chronique, je dis.
Bien sûr. Allez, hop, on enchaîne. Ouais, ouais. Bon, il y a du beau monde ce soir. Il y a deux anciens pros, donc Vikash et Karim. Ouais, ouais. Vous avez joué ensemble, je crois.
On a joué l'un contre l'autre, c'était génial.
À l'époque où tu jouais à Marseille, je crois.
Absolument. Ouais, ouais. Absolument. Ah, t'as suivi ma carrière.
Ben, j'ai regardé ton top but sur YouTube. Une bonne vidéo de 30 secondes, c'est pas mal, c'est franchement.
Cool. Il y a des highlights de Karim Benani.
Highlights de Karim. Bon, alors tout à l'heure, on aura un nouvel épisode des infos avec un Z, avec du grand Nabil Djellit. On aura également du grand Septarago. Il vient pas souvent, mais alors quand il vient, il en met à tout le monde et puis ça se régale. Mais pour l'instant, petit teasing, on y va. Karim Benani, t'as chambré Ludo Bragnac quand on parlait du pénalty du PSG récemment contre Rennes.
Imaginons qu'il n'est pas là-bas.
Non, il ne siffle pas. En temps réel, il met corner.
Il se déjuge.
Après, n'hésite pas à regarder les matchs.
Aujourd'hui, je te dis que.
Autre blague, cinéma ambiance, Ryan Gosling avec Bertrand Latour.
Hier, c'était le Norvégien Erling Haaland qui s'est présenté face à la presse.
Il était là à Haaland.
Oh, merci. Merci
Bertrand.
C'est un très beau film. Avec Ryan Gosling. Bon, bref, il était en conférence de presse hier.
Mais c'est vrai qu'alors, si on fait une petite différence avant et après 6 mois d'alcool, eh ben regardez, c'est pas mal, franchement. On a quelque chose. Eh ouais, c'est pas mal. Et puis, on a appris un nouveau mot désormais quand vous avez le brassard. Vous n'êtes pas capitaine, vous êtes, regardez bien, capitaine. Voilà, c'est un très joli mot.
Capitaine.
Voilà. Ouais. Pour info, on dit capitaine à la rédac. Hein. Il faut parler français.
Bah, c'est qu'est-ce que je fais?
Ouais, il y a des progrès à faire. Voilà, tout à l'heure.
C'est terrible. On n'a pas le droit à l'erreur. Merci, Antoine. À tout à l'heure, évidemment, le replay. Tout à l'heure, émission un petit peu raccrochée, on vous l'a dit, pour cause. Parce qu'il y a du biathlon. Tiens, on y retourne. Regardez un petit peu ces fantastiques images. Donc, voilà, c'est du direct, hein, bien sûr, les images qu'on vous propose. Nous sommes aux États-Unis, à Soldier Hollow, où se déroule cette étape de biathlon avec le relais homme ce soir pour commencer dès 20h20. Et puis ensuite, il y aura le sprint femme. Voilà, on va
voir comment les Français réagissent. C'est une autre neige, c'est une autre ambiance. Ce sont les États-Unis. Peut-être que Anne-Sophie Bernardi parlera comme ça. Enfin, c'est assez incroyable. Donc, c'est ce soir et c'est sur la chaîne Équipe.
Qu'est-ce qui t'arrive?
Je sais pas. Les États-Unis, d'un seul coup, je prends pour un cow-boy. Allez, on y va. Le jingle, c'est parti. Les paradis week-end. Les paris du week-end commencent évidemment avec le programme du week-end, Raphaël.
Voilà, s'il vous plaît. Avec l'accent français, 25e journée, pas américain, regardez le programme. Nice-Montpellier, c'est tout à l'heure à 21h, samedi, il y aura Lorient-Lyon et Lens qui recevra Brest, ce sera l'une des très belles affiches de cette 25e journée de Ligue 1. Dimanche à 13h, le Paris Saint-Germain accueillera Reims, il y aura également Strasbourg-Monaco, Le Havre-Toulouse, Metz-Clermont, Lille-Rennes et cette 25e journée sera clôturée par le match entre Marseille et Nantes.
Alors, quels sont vos paris ce week-end? Qu'est-ce que vous allez suivre en priorité, votre coup de cœur? Lucas Chevalier pour Candice Roland. Will Steel, je crois qu'on l'a quasiment tous les vendredis, Will Steel. Mais bon, il y a match contre le PSG. En Brest, donc, c'est ça, hein, Anthony? Voilà.
Quoi, c'est pas très bien écrit?
Non, c'est étrange, mais ça passe.
Mohamed Bamba. Bon.
Lorient. Ah oui, bien sûr. Et alors, on attendait Vikash au tournant. Oh, étonnant. Ça sera donc Lucas Elsner, l'entraîneur du Havre, pour nous étonner.
Tenter, c'est passé.
C'est sûr. Et Metz pour.
Ah oui. Et Metz Clermont. Hein.
Ah bah ça, c'est sûr que là, ça, vous nous faites frétiller. Non. On a la chair de poule. Metz Clermont, d'un seul coup.
On pense à Julien Chalet, notre chef d'édition.
Ah bah oui, voilà, à part pour aller failloter auprès de Julien, je vois pas pourquoi vous me mettez Metz. Mais bon, c'est bien. Ah bah tiens, allez,
bingo.
Ah oui, on me dit bingo le faillotage, c'est vrai, j'ai oublié.
Ah, il y a une faute.
Ah, bah là, vous faillotez auprès des chefs en mettant masse, vous allez sur le. Voilà. Bon, venez vite, parce qu'on va peut-être avoir besoin de vous voir. On va commencer par le club du week-end. Bah oui, il faillote toujours. Voilà, vous êtes à votre place là, Raph.
Oui, je suis bien.
Moi, c'est bonne faillotage.
Faillotage
intense. Toujours. Le club, Brest, Anthony Clément. Alors là, c'est le club du moment.
Bah, le club de la saison. Plus que du moment, ouais, mais ça commence vraiment à sentir très bon pour Brest, pour la Ligue des Champions. Et c'est un match aussi qui fait très envie parce que ce déplacement à Bollaert, Lens qui a plus la Coupe d'Europe, qui peut aussi lancer son sprint final pour retrouver l'Europe l'année prochaine. Et Brest qui est sur une dynamique totalement impressionnante. On se demande quand ça va s'arrêter pour Brest et chaque match montre qu'ils ont les moyens d'étirer leur série. L'image évidemment de Pierre Lespelou dont on parle énormément et qui n'a pas du tout été perturbé par son mercato hivernal, les approches de Rennes, le fait qu'il soit resté. C'est une équipe qui est toujours plus bluffante, qui est de plus en plus intéressante, qui trouve toujours les solutions alors qu'elle est de plus en plus étudiée par les adversaires. C'était aussi un écueil qu'on pouvait imaginer, comment cette équipe allait réagir et s'adapter à son nouveau statut et au regard qui change sur elle. Et finalement, ils sont
Vous n'avez pas peur qu'à un moment donné, quand même, non ?
Ben, on se dit ça depuis un petit moment, et à chaque fois, elle a montré que ça passait. Et dans des registres différents, elle avait donné la leçon à Marseille, donc elle n'a pas peur de jouer contre des gros. Et ce match-là, à Lens, c'est vraiment quelque chose qui peut la faire basculer comme un incontournable sur le podium, parce que là, mine de rien, il y a un petit écart qui se creuse, et c'est plus du tout une sensation de les voir là, parce qu'on se dit qu'ils sont à leur place, en fait.
Alors, salut Faro qui nous met du Lesmelou en astérix. Et vous voyez la différence entre Greg qui maîtrise l'émission. Jamais lui, il aura envoyé Rafou à ce moment-là à l'émission parce qu'on a besoin de Raf. Donc revenez, Raf. Voilà, c'est sûr. Franchement, oui.
Mais il dit rien lui aussi.
Fait n'importe quoi, Raf. Il fallait pas aller sur le banc, enfin pas maintenant.
Vous avez besoin de moi. Bah, bien sûr. De quoi, de Brest, c'est ça?
Exactement.
Qu'est-ce que j'ai préparé sur Brest? Des chiffres, oui, pour vous parler de cette série vraiment brestoise qui est impressionnante. Le nombre de matchs en défaite s'élève désormais à 13, 9 victoires, 4 nuls. C'est la plus longue en Ligue 1 de l'histoire de Brest. Et le nombre de buts encaissés, c'est 18. Seul Nice en a concédé moins cette saison en Ligue 1.
Bon, on va voir jusqu'où iront les Brestois. Puis il y a cette histoire aussi de Ligue des Champions. Voilà, on suit ça de près. Je crois que demain, d'ailleurs, dans l'équipe, on aura des infos aussi sur le stade, hein, vous savez, du côté de Brest. Je crois que c'est à lire demain dans le journal de l'équipe. Alors, Lille à Rennes, c'est ça, dimanche. Et vous avez choisi Lucas Chevalier.
Oui, pour un peu mettre la lumière sur, voilà, sur un gardien. Ce n'est pas forcément toujours une évidence. Mais c'est une évidence, lui, en tout cas, à Lille. Lucas Chevalier, sa première saison comme vrai numéro 1. Il a fait ses classes, il est allé s'aguerrir à Valenciennes, voilà, il a progressé. On l'attendait comme espoir et il confirme aussi, c'est pas évident d'avoir l'étiquette dans le dos et derrière d'arriver à vraiment répondre à toutes ses attentes. Il parle travail aussi, c'est un discours que j'aime beaucoup. Il est performant hier encore, il a été performant. C'est, une équipe de ligne quatrième, mais qui forcément, vous avez besoin d'un grand gardien pour performer sur une saison, et il l'est, et il passe les étapes les unes après les autres. Voilà, il parle de travail au quotidien avec son entraîneur, mettre en place des choses. Donc Antonio Ferreira qui est là pour le faire grandir tout simplement, et voilà, il y va tout doucement, 22 ans, mais au final, on a l'impression que la pression coule sur lui, et à chaque test, eh bien, il répond présent, et il gravit les échelons petit à petit. Donc je trouve que c'est une belle première saison, en tout cas en tant que numéro 1. C'est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, tout simplement. Donc ça sera encore évidemment un homme à suivre ce week-end face à Rennes. Lille-Rennes, voilà, c'est ces clubs un peu joueurs. Ça peut être un beau match, mais il aura forcément son rôle à jouer.
Avec une équipe de Lille, donc quatrième défense de ce championnat de France de Ligue 1. Il y est pour beaucoup, Lucas Chevalier. C'est seulement 20 buts encaissés cette saison. Quatrième défense, on parlait de celle de Brest tout à l'heure. Si Lille n'a encaissé que 20 buts cette saison, c'est grâce notamment aux performances de son gardien titulaire, Lucas Chevalier.
Allez, on fera un petit thème. Lucas Chevalier appelé par Didier Deschamps ou un truc comme ça bientôt. Je sens, ça va venir. Ça va venir vite. Alors attention, dans les paris du week-end, étonnamment, Vicage Dorasso a choisi Le Havre avec son coach. Donc Lucas Elsner qui est slovène, hein, c'est ça, Vikash, qui joue contre...
Il a dû naître à Nice.
TFC.
Après, il est reparti là-bas. Il est, alors moi, j'aime beaucoup le voir sur le banc. Je trouve qu'il est super, il est calme. Et c'est un héros. Hein. Il a fait monter le club du Havre. Moi, c'est ma ville natale, donc évidemment, ça me touche particulièrement.
Ah oui, t'en parles jamais pourtant.
J'en profite, sinon vous n'allez pas en parler. Donc, faut être Brest, deuxième du championnat.
Là, on voit Lucas Elsner face au TFC.
Qui est en danger, en grand danger, et pourtant, on est encore avec deux points d'avance, malgré les quatre dernières défaites. Lui, il en est conscient. C'est à peu près normal d'être là quand on est le HAC. C'est notre position à jouer le maintien. On s'est peut-être enflammé à un moment parce qu'on avait pris un peu d'avance et puis ça marchait bien. Ça va se jouer à très peu de choses. Ils cherchent la solution. L'important, à mon avis, le club, la ville et sont prêts à se battre pour aller se maintenir. Les joueurs, eux, est-ce qu'ils le sont? C'est ça qui est difficile dans ce genre de club. Les joueurs arrivent d'un peu de partout. Ils sont pas...
Il cache aller leur parler dans le vestiaire. Là, je me sens habité. Allez parler aux joueurs dans le vestiaire.
On l'a déjà fait passer les messages, vous inquiétez pas. mais ce qui est génial, c'est qu'ils cherchent la solution. Je l'ai croisé récemment. C'est un club qui travaille dur pour compenser le budget qui est petit, le club qui est petit, le recrutement qui a été petit aussi. Voilà, il fait avec les moyens du bord. Et je suis persuadé que ça va le faire, mais ça va jouer à peu de choses. Le match contre Toulouse, c'est pas des confrontations directes. Nous, on doit prendre des points pour sortir de derrière, pas essayer d'aller jouer Toulouse qui, me semble-t-il, est sortie, de la zone difficile. Donc voilà, il y a un soutien incroyable. C'était incroyable de remplir le stade. Il y avait plus de 20 000 personnes qui viennent au stade. C'était pas prévu. Hein. Et c'est plus de 10% de la population du Havre. Donc c'est beaucoup de monde qui va au stade et qui croit beaucoup grâce à lui. Parce qu'il nous fait bien jouer en plus. Hein.
Mais le problème, c'est qu'à domicile, ils ne gagnent plus les Havrais. Et là, il va falloir le faire face à Toulouse, qui est en forme. Justement, ce sont nos deux chiffres qu'on voulait vous montrer. Le Havre ne s'est imposé lors d'aucune de ses 7 dernières réceptions. On est sur 4 nuls et 3 défaites face à une équipe de Toulouse qui a pris 15 points sur la phase retour. Il n'y a que Rennes qui a fait mieux, donc c'est compliqué. Il va falloir jouer Toulouse, qui est dans une très bonne forme. Et le Havre va devoir essayer d'aller chercher enfin une victoire depuis 7 matchs à domicile. Ouais.
Ça va être intéressant. Vikash, vous nous avez donné envie. Vous voyez, on a bien fait parce que ça nous a piqué. Et on va regarder ça de très très près. Allez, le tube du moment, c'est la Bamba, Mohamed Bamba, évidemment, avec Lorient.
Est-ce que vous pouvez le rechanter, s'il vous plaît?
Bamba.
Allez, vous êtes vraiment terrible.
Lâche-toi, vas-y.
Non, c'est incroyable.
Mais la musique, on peut rire.
La moindre petite faiblesse.
C'était sincère.
Vous insistez dessus.
Non, c'était pas sincère. Non, c'est comme tu demandes à un chanteur son tube.
C'est pas un chanteur. On arrête tout de suite.
Vous voulez griller ma fantastique carrière. C'est incroyable. Deux chanteurs, d'ailleurs. Alors,
allez, vas-y.
Allez, résistez pas.
Allez, craque.
Lâche-toi. Je vous ai entendu Anne Riou me parler de ce Lorient.
Peut-être la plus belle histoire de la saison, Mohamed Bamba, parce que c'est absolument tout ce qu'on aime dans le football. Quelqu'un quand même qui a été recruté l'été dernier par le club autrichien de Wolfsberger, un club de deuxième division israélienne, pour 200 000 euros. C'est-à-dire que l'été dernier, ce garçon a été recruté pour 200 000 euros et là, il a été transféré pour 5 millions d'euros, bonus compris. Et surtout, c'est qu'il faut souligner quand même l'immense travail de la cellule data, parce que là, il a été vraiment quasiment recruté par le data, la cellule de recrutement de Lorient, qui a fait un boulot absolument extraordinaire en janvier, parce qu'il n'y a pas que Mohamed Bamba. Et c'est un joueur tout simplement qui change la face du championnat de Lorient. Lorient est en perdition complète, problème vraiment dans le cœur du vestiaire. Et puis il te met 6 buts en 6 matchs, il te bat tous les records. Ces buts si importants contre le Havre, Montpellier, Reims, doublé contre Strasbourg, contre Rennes, là c'est un match capital en bas de tableau contre l'OL, ça va être fantastique. Il est un petit peu blessé à l'épaule, mais il est quand même présent. Et surtout c'est ça qui est fantastique, parce que c'est au-delà de ses buts, son investissement également sur le terrain, l'humilité et ses destins. Voilà, c'est un Ivoirien. Il était parti en Israël. Il n'avait pas été reçu dans un grand club. Il s'est retrouvé en D2 israélienne. Et puis après, tu graves les échelons. Il y a pas. Il faut vraiment de plus en plus regarder en Autriche. Il y a également Oumar Diakité, qui formidable d'ailleurs à la CAN, formidable avec Reims, qui vient également du championnat autrichien. Et puis finalement, moi j'aime beaucoup Régis Le Bris. Donc je suis très heureux pour Régis Le Bris, qui en a pris quand même plein la gueule pendant quelques semaines. Il a redressé la situation de manière admirable. Finalement, c'est tout un club qui s'est sauvé.
L'apologie des data, ça m'étonne de vous.
Parce qu'en fait, franchement, il y a un moment donné, la Ligue 1 est quand même grandement en difficulté. Et il faut être ingénieux, il faut trouver des bonnes pistes, il faut trouver des solutions improbables. C'est une solution improbable. Et moi, je trouve que, et n'oublions pas que quand il avait commencé en mettant 5 buts en 4 matchs, ça n'avait jamais été fait comme depuis 50 ans, depuis octobre 1973. Donc ce qu'il fait, ce garçon, c'est tout simplement historique. Il bat des records journée après journée. Et on pensait qu'éventuellement, ça allait s'arrêter. Contre Rennes, il met encore un but. Et là, franchement, j'ai hâte de le voir demain à 17h contre l'OL.
Et top, une pulvérisation de Ventoline. C'est parti.
Et Johan a parlé de ses 6 buts inscrits par Bamba. C'est prodigieux. On a regardé les joueurs qui avaient atteint, il parlait de ce fameux record, match pour atteindre 6 buts quand on arrive en Ligue 1 au XXIe siècle. Eh bien, il a fait cela comme Neymar lorsqu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Et juste devant lui, il y a des garçons comme Mario Balotelli quand il a découvert la Ligue 1, ou Zlatan Ibrahimovic. Il fait partie de ces grands noms. C'est incroyable. Mohamed Bamba.
Quand il avait marqué 5 buts en 4 journées, c'était historique depuis 5 ans.
Depuis 1900, voilà.
Et depuis maintenant, il y a 6 matchs.
Voilà, exactement. Maintenant, ça a un petit peu changé. Mais il avait raison. Il avait raison dans son argumentaire.
Est-ce que je vous ai convaincu ou pas? Vous achetez?
Oui.
Pas mal quand même, non?
Le recrutement sur data. Donc, le recrutement sur data. Allez, Will Steele, c'est le choix de Karim Benani. Donc, puisque Reims jouera au Paris Saint-Germain.
Ouais, au Parc des Princes, le match d'après pour les Parisiens, après la qualification, le quid de Kylian Mbappé, est-ce qu'il sera titulaire ou pas, sur la logique de Luis Enrique, ça peut encore animer les différents débats. Et moi, j'avais envie d'axer sur Will Steele, qui a perdu le match contre Lille, mais qui n'aurait pas dû le perdre, ce match-là. Erreur d'Abdelhamid qui a causé la défaite des Rémois. Tactiquement, il a été assez impressionnant, encore une fois, je trouve, contre Lille, pour avoir vu ce match de près. Il a réussi à dessiner un carré au milieu qui a perdu le milieu de Lille, et il a des idées, ce coach. Moi c'est ce que j'aime chez lui, c'est qu'il arrive à l'instar de Lucas Elsner, il arrive avec le peu de moyens dont il dispose. Il en dispose plus que Lucas Elsner, effectivement, mais par rapport à d'autres écuries, il arrive parfois à embêter des grosses écuries, des grosses équipes. Et ce fut le cas du Paris Saint-Germain la saison dernière, souvenez-vous, avec le but de Balogun en fin de match, il avait embêté le PSG, et je pense qu'il peut réitérer cette chose-là, parce que le match d'après en Ligue des Champions, peut-être que le Paris Saint-Germain sera moins concerné sur ce match-là, Luis Enrique qui fera peut-être encore un peu tourner, et je pense qu'il a un coup à jouer, parce que son équipe joue de nouveau mieux, joue de nouveau tactiquement, comme lui l'entend. Donc je vois un coup de Will Steele au Parc ce week-end.
Profitons-en, parce qu'il ne devrait pas rester en Ligue 1 en plus.
Vu le talent qu'il a, ouais. Malheureusement.
Allez, on vous rappelle, c'est le rêve américain ce soir sur la chaîne Équipe. À partir de 20h20, le relais homme, c'est aux États-Unis cette étape de biathlon. Voici les images en direct. On retrouvera toute notre équipe biathlon, bien entendu. Messaoud est là à l'américaine. Chewing-gum en bouche, bien entendu. Et Santiago pour Messaoud, qu'on verra tout à l'heure. On va vivre une grande étape relais homme pour commencer. Sprint femme ce soir, c'est l'événement, bien entendu. Warren Zahir Emery, c'est un autre événement, c'est son anniversaire, et on vous demandera si de le voir tête d'affiche du PSG maintenant, est-ce que c'est excitant pour vous? On parlera de Dimitri Payet, on aura le foutoir, et puis bien sûr Antoine Pinot revient avec le replay. Le biathlon approche, mais on a encore un petit bout de l'équipe de Greg, à tout de suite. C'est l'équipe de Greg avec l'événement ce soir, évidemment l'étape américaine pour le biathlon. On retrouve les États-Unis, oui vous y êtes là, c'est du direct, Solder Hello bien sûr. Avant le relais homme et le sprint femme. Et on va aller retrouver Tanguy Karas. Il se retrouve là-bas. Oh, regardez, il est là. Tanguy, c'est le rêve américain ce soir sur la chaîne Équipe. Et pour les Français, je l'espère aussi. Est-ce que, d'ailleurs, là, on a une heure du début de la course, est-ce que la France peut gagner ce relais, par exemple?
Yeah, Benoît. Direct live from the pas de tir, the shooting range, as we say here. Effectivement, ça vient de commencer les réglages. Bah, il y a l'armada norvégienne qui est juste face à nous avec Tarjei numéro 2 mondial, Sturla Laegrid, champion du monde il y a quelques semaines. Et puis derrière la France, ça va être dur pour la France qui va faire cette course sans Quentin Fillon-Maillet, un de ses leaders qui est mis au repos aujourd'hui. Et effectivement, pour vous planter le décor, on est au milieu des Rocheuses. On a la flamme olympique de 2002 qui est là des Jeux de Salt Lake City. On est à 1500 mètres d'altitude, mais à la latitude du Portugal, il fait très chaud. La neige est en train de mouiller, de fondre tranquillement. Donc ça va être des conditions très dures pour cette course.
Ah. Et il est quelle heure chez vous, Tanguy? Juste. Il est... non, gardez les lunettes. Gardez. Juste. Il est quelle heure précisément là chez vous?
Il est 11h45. C'est l'heure de l'apéro. Les glaçons sont en train de fondre tranquillement. Ouais. Et pour vous, c'est l'heure de l'apéro, mais pas le même apéro. Donc on est à peu près raccord quand même.
Bon, très bien. À tout à l'heure, Tanguy. À consommer avec modération cet apéro, évidemment. Mais merci, Tanguy. En effet, voilà. Donc il va faire très très chaud. Conditions très particulières. Je pense que Messaoud pourrait même nous dire des conditions dantesques ce soir. Oui. Soyez vigilants pour cette étape de biathlon.
Bingo.
Attention. C'est parti, anniversaire. Eh oui.
Bon anniversaire ?
Non, pas vous. Warren Zahir Emery, la méga star du Paris Saint-Germain qui fête ses 18 ans aujourd'hui.
On va enfin faire l'apéro du coup, puisque
il
a 18 ans avec modération. Et il était dans le journal de l'équipe ce matin, il y avait un intéressant papier où on apprenait qu'il deviendra le joueur emblématique du Paris Saint-Germain. C'est la volonté du club de l'ériger en future tête de proue de son nouveau projet qui ne laisse cependant aucune place au doute. Il coche toutes les cases, il incarne la jeunesse française et parisienne, il est performant, il bat tous les records de précocité, n'a jamais été en flagrant délit d'incorrection, n'est pas timide et son émergence tombe au moment où Neymar et Messi sont partis, et Mbappé a priori lui aussi.
Eh oui, plus de Neymar, plus de Messi, plus d'Mbappé, donc c'est Warren Zahir Emery, le nouvel emblème du PSG. Est-ce que ça vous excite? Attention, c'est parti. Pas vraiment, Candice. Absolument très excité pour Karim, oui pour Anthony. Oh oui, vous faites toujours le oh oui, chacun. Non pour Vikash et oui pour Raphaël. Tiens, on va commencer par Candice peut-être, avec le pas vraiment vous. C'est pas votre tasse de thé, ça.
Non, en fait, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, forcément, on passe d'un Neymar, d'un Mbappé à Zahir Emery, qui n'est pas forcément dans cette mentalité vraiment d'attirer la lumière. Il fait très bien son travail, il progresse comme il faut, il l'impressionne aussi. Mais tout le côté communication, je te mets en avant, j'ai plutôt envie de le préserver. Moi, j'ai envie qu'il grandisse tranquillement, qu'il fasse son trou et qu'il fasse son chemin comme il le sent lui, comment il est lui, et qu'on n'aille pas l'obliger, le pousser à être quelqu'un qu'il n'est pas, en fait. Après, forcément, vous passez après des cadors qui ont vraiment attiré, Warren Zahir Emery. Oui, je pense que les amoureux du foot, ceux qui connaissent le foot, savent qui c'est. Et évidemment, on va se rendre compte de ses qualités. À l'autre bout du monde, je pense que ça ne parle pas du tout. Et je ne sais pas si ce serait lui faire un cadeau qui est d'essayer justement de lui construire un peu un personnage et que ce soit l'emblème du PSG. Que ce soit un Parisien formé au club, qu'il arrive en équipe première, qu'il soit l'un des fers de lance, très bien. Mais j'aurais peur un peu pour lui qu'on l'érige en numéro un, que ce soit lui qu'on voit toujours les photos partout, que ce soit lui qui soit sollicité tout le temps. J'ai plutôt envie de le protéger, de le laisser grandir comme il veut et sans forcément le pousser à être à contre-nature, en fait.
Anthony a envie de vous contrer, là.
Non, mais c'est juste, personne ne lui demande de se dénaturer pour être l'emblème du PSG. C'est justement, il est l'emblème du PSG pour de bonnes raisons, parce que c'est un enfant du club, qu'il est très fort, qu'il est déjà international et qu'il a les épaules sportives pour assumer ça. Et justement, l'idée, c'est de sortir du PSG Harlem Globetrotters, qui attire plein de stars dans un projet qui sportivement ne rime à rien.
Enfin, c'est parce que dit Candice aussi, c'est le préserver en même temps. C'est vrai que
le préserver, pas lui rendre pour l'instant, on peut pas dire que ça lui fait peur de franchir des étapes et
il
explose tous les frontières, sportif, tous les obstacles. Ouais. Il a un destin, ce garçon, c'est
une évidence. Mais médiatiquement, tout ça, c'est ça que je veux dire.
Parce il n'a pas besoin. Exposé médiatiquement pour être l'emblème du PSG.
Toutes les campagnes des équipementiers, tu fais toutes les campagnes des partenaires, des sponsors, des machins, tu te fais toutes les tournées estivales. Enfin, voilà, c'est ça aussi l'emblème.
Vous avez évoqué les records de précocité. Alors, on va faire ceux de l'équipe de France et en Ligue des Champions. L'équipe de France, il y en a aussi, mais on va s'intéresser à lui, au Paris
Saint-Germain et il a battu tous les records avec le Paris Saint-Germain en termes de précocité. Ouais. Plus jeune joueur et plus jeune buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il n'avait même pas encore 17 ans. Il est devenu le 25 octobre dernier le premier joueur de l'histoire du PSG à fêter sa 20e titularisation toute compétition confondue avant ses 18 ans. C'est énorme aussi. Et puis, ses records avec le PSG, mais à travers la Ligue des Champions, le 14 février, il y a un an, à 16 ans et 343 jours, il était devenu le plus jeune joueur à être titulaire lors d'un match élimination directe de l'histoire de la Ligue des Champions. Et puis, il est devenu le plus jeune joueur à enregistrer au moins 3 passes décisives avant ses 18 ans en Ligue des Champions, à 17 ans et 231 jours. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a que des chiffres, hein, ouais. Parce qu'il débat ses records de précocité, Paris et Ligue des Champions.
Sur le terrain, sur le foot, mais comme dit Candice, là, on va lui demander de battre le record de vente de maillots, par exemple. Et, et c'est peut-être différent. Je voudrais qu'on entende Vikash qui nous dit non, et après, on ira voir Karim. Mais vous, vous n'êtes pas pour le mettre en tête de gondole, on va dire.
Ah si, ils peuvent le faire. Mais moi, je sens qu'on va s'ennuyer, quoi. Ça va être très lisse, très... alors lui, ce qu'il dit, alors il est parfait. Hein. Moi, je trouve que c'est un joueur extraordinaire. Je pense que dans les centres de formation, le milieu de terrain sur lequel on doit se copier, le prototype du milieu de terrain, c'est lui. C'est extraordinaire ce qu'il va faire. Après, est-ce que... Alors, le ventre, par exemple, dans les quartiers populaires, j'ai lu dans le papier, les jeunes des quartiers populaires vont s'identifier à lui. Ils s'identifient plus à Neymar, à Messi. Ils ont envie de faire des gestes de folie. Ils ont envie de... Et ça, ils pourront le trouver ailleurs.
Ils vont Neymar et Messi, ils ont été sifflés. Il n'y avait absolument aucune
pas dans les quartiers populaires.
Avec... Non, mais on parle du stade
pas
aussi.
Dans les quartiers... enfin, moi, je parle dans les quartiers populaires. Après, toi, tu ne peux pas aller dans les stades.
Mais, ça se joue dans les stades, quand même, le foot.
Bah, le foot, ça joue aussi dans les quartiers populaires. Les Parisiens, l'emblème, c'est vendre aussi des maillots dans les quartiers populaires. C'est s'identifier à quelque chose.
Je pense que Zaire Emery, il incarne moins de choses pour les Parisiens Messi ou Neymar.
Après, tu peux penser autre chose. Non, mais je pense ça. Et je vais m'ennuyer avec lui. Quoi. Je pense que c'est très propre dans son jeu aussi. Il va pas mettre de folie dans sa communication, mais comme dans son jeu. Alors après, ça va être très fort sur le terrain. Il va certainement marquer des buts, battre des records aussi. Est-ce que ça vend à l'international un joueur comme lui? Je ne suis pas sûr.
Karim.
Oui, je pense que c'est par le sportif que justement il vendra des maillots à l'international parce qu'il sera le meilleur joueur du Paris Saint-Germain sur les prochaines années. Je fais un parallèle qui n'a rien à voir parce que c'est la sélection, mais quand Jacquet décide de sortir Cantona pour mettre Zidane, en termes de caractère, on n'y était pas, hein, ça n'avait rien à voir. Cantona était le torse bombé, la star de Manchester. Ouais, Zidane est arrivé en équipe de France sur la pointe des pieds sans donner ou dire un mot plus haut que l'autre. Et ça a été quasiment comme ça toute sa carrière. Il n'avait pas eu besoin de faire des déclarations fracassantes pour être un emblème, l'icône de l'équipe de France à ce moment-là, ou même des clubs dans lesquels il a joué. Et Zaïre Emery, je fais à peu près ce parallèle-là, pas pour le joueur, mais pour la communication. Il n'aura pas besoin de faire une communication folle pour être un emblème. Je pense que les performances parlent déjà pour lui, que son jeu va s'étoffer, que évidemment son média training va aussi s'étoffer, c'est-à-dire qu'avec nous, il va nous donner un peu plus de choses en grandissant. Il n'a que 18 ans, il vient d'être majeur. Donc moi, j'attends de voir Zaïre Emery dans 2, 3, 4 ans, et j'imagine que dans 4 ans, il n'aura absolument pas le même discours et qu'il nous donnera un peu plus à manger, pour parler vulgairement, aux journalistes et aux téléspectateurs, aux spectateurs, pour avoir un peu plus d'épaisseur.
Jean-Benoît, c'est important, il y a un autre anniversaire très important aujourd'hui, un fils, et oui, extraordinaire, il a 4 ans.
Alors, je voulais lui laisser la parole, on n'a plus le temps,
il a 4 ans.
Bon, alors, top, voilà, vous avez usé votre temps. Alors,
c'est un génie, on a affaire vraiment à un génie, on ne sait pas, non, mais c'est important, c'est comme ton fiston, quoi, faire.
On n'a pas besoin d'en parler ici.
Tiens, mon anniversaire, allez, la bamba en régie, là, allez,
la bamba,
là.
Non, mais tu vas envoyer le foutoir,
je sais que t'es ému.
Ah bah oui, vous avez les larmes aux yeux, là.
Mais ta vie,
Il va vous en vouloir à vie.
Mais non,
vous êtes en train de pourrir sa vie dès l'âge de 4 ans.
Vous avez le cadre de pénalité, bon. Il sera plus fort que Dupont. Donc j'ai pas le droit de parler alors, j'ai pas le droit.
Pas trop tard, vous avez utilisé votre temps. C'est le foutoir. Allez hop, go, c'est parti. C'est avec plein d'émotions que je lance ce foutoir, mon cher Raphaël. Donc Dimitri Payet, qui s'est livré dans un entretien à l'équipe.
Lui aussi, l'international français de 36 ans a reconnu qu'il n'avait pas digéré son départ de l'Olympique de Marseille l'été dernier. Honnêtement, la plaie ne se refermera jamais. La rupture a été brutale et très difficile pour moi. Après, il faut vivre avec. Quand je suis arrivé, j'étais par terre. C'était difficile. Lors de ma course de départ, c'était fini. Dans ma tête, je ne voyais pas où je pouvais rebondir. Merci aux Vasco, aux supporters qui m'ont aidé à me relever. Ça, c'est sur la partie Olympique de Marseille. Et dans cette interview, il dévoile qu'il aimerait disputer les Jeux Olympiques avec la France. Il n'y a que 3 places, je suis à la disposition de la France, je sais que c'est ce que c'est de jouer un euro dans mon pays et c'était extraordinaire. En revanche, j'ignore ce que c'est que disputer les JO. En tant que Français, j'aimerais bien vivre une telle expérience, ça me plairait, oui. Je suis à la disposition de l'équipe de France, quelle qu'elle soit.
Et vous avez ému, Vikash, Dimitri Payet?
Oui, moi, enfin, il m'a pas forcément ému, mais je trouve que c'est juste ce qui lui est arrivé était difficile, c'était pas mérité. Et puis, je trouve qu'il a raison de se positionner pour les JO, tant qu'à faire.
Et vous y croyez? Vous croyez qu'il peut intégrer l'équipe de Thierry Henry?
Bah, c'est un sacré joueur, quoi. Si jamais il pouvait.
Son avantage, c'est qu'il va pas faire l'euro.
Attendez, il en faut que trois et on est déjà sur.
Son club sera plus enclin à le laisser disputer les jeux comme Gignac à l'époque avec les Tigresses.
Et si les autres n'y vont pas, alors.
Parce qu'un Griezmann, je vois mal l'Atlético laisser Griezmann enchaîner euro plus derrière les JO. Un joueur de très grand club, hormis Mbappé qui a peut-être négocié ça avec son futur club, mais je vois pas un club européen aujourd'hui laisser un joueur doubler euro.
Et Griezmann à l'Atlético, il a quand même une relation qui
mais enjeu financier, économique, si la France va loin à l'euro, derrière, il faut jouer les jeux 2-3 semaines après, et ensuite enchaîner par une préparation pour l'Atlético. Enfin, je ne vois pas un gros club européen qui a des ambitions laisser un joueur faire ça.
Et n'oublions pas quand même ce que Payet a fait, moi, les émotions. Moi, c'est un des trois joueurs qui m'a procuré le plus d'émotions. J'ai encore dans le coffre de ma Clio, j'ai son maillot de l'équipe de France de 2016. N'oublions pas l'Euro 2016 qui fait la saison à West Ham, qui est absolument gigantesque. Il a sacrifié un mondial quand même pour Marseille à la finale de la Ligue Europa 2018. Il volait, il marchait sur l'eau, et ce garçon-là a été tellement critiqué à chaque fois. Alors parfois, à juste raison, mais à chaque fois il revenait, c'est quand même Sisyphe, et moi je trouve que franchement ce joueur est merveilleux, même le choix encore d'aller au Brésil.
Et il a futé là.
Et franchement c'est un joueur,
il a comme
les
jamais,
émotions genre, que nous a donné ce mec pendant l'Euro 2016, pendant les années à Marseille, à West Ham, ce qui fait à West Ham où c'était devenu un dieu pendant une saison, franchement moi je le surkiffe.
Farioli, pardon, lui a été conforté jusqu'à la fin de la saison.
Oui, par son directeur sportif au poste d'entraîneur de Nice. Nice qui rencontre Montpellier, je vous le rappelle, ce soir, malgré 5 matchs sans victoire. Farioli donc conserve la confiance de son directeur sportif. Farioli, la question ne se pose même pas. Je ne veux pas qu'il se sente en danger. C'est à nous de prendre la pression. Je lui conseille de garder la tête froide et la stabilité.
Voilà, on va voir. Ça, c'est les discours qu'on dit, on sait comment ça.
Mais là, pour le coup, enfin, c'est quand même bien logique. Non,
vous êtes sûr
il est cinquième
que...
de Ligue 1. Oui, alors il y a une petite passe difficile, mais si vous faites sauter votre entraîneur qui a convaincu en plus depuis le début de la saison, qui a quand même lancé.
Surtout pour rebondir, il faut en faire sauter deux.
Oui, c'est
ça. Beaucoup de sang.
Discours logique qui s'entend et qui est quand même un peu rassurant. Il n'y a pas que de la folie dans le foot, quoi.
Bon, la folie sur le terrain, peut-être. Liverpool qui s'est imposé largement contre Prague.
Dans son 8e de finale aller de la Ligue Europa, des images. Liverpool a fait un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale. Ils ont battu le Sparta sur le score de 5-1. On voulait vous montrer le doublé de Darwin Núñez. Regardez.
Là, il a fait exprès, premier, là.
Il a fait exprès, 25e minute de jeu. Elle est belle, hein. Elle est magnifique.
On a mérité le hat-trick.
Et puis, on ne pouvait pas tous vous les montrer, mais on en a montré d'autres. Darwin Núñez, dans le temps additionnel de la première période. Ah ouais. Le buteur, le geste de buteur magnifique, doublé. Donc, la victoire 5-1 de Liverpool.
Sur le tirage.
Ah, c'est formidable. Mais Liverpool, ils jouent City ce week-end, c'est ça?
Ouais.
Donc là, ça va être chaud. Ils ont bien fait la transition. Et ça la joue pas. Ils construisent un truc qui peut être costaud pour l'avenir. Et s'ils sont champions, ce serait même pas à construire, ce serait déjà là.
Et il n'y aura plus Klopp après. Enfin, voilà, il va y avoir un nouveau Liverpool à partir de la saison
mais
prochaine.
Mais il part bien, quoi.
Oui, il part bien.
Nos entraîneurs,
avec Zaguerre. Il a bien géré aussi, quoi, son départ.
Tout est bien géré, quoi.
Bien, Vikash, ça va vous plaire. L'AC Milan a pris une belle option aussi pour les quarts de finale.
L'AC Milan a assuré l'essentiel en s'imposant contre le Slavia Prague. J'ai voulu parler de tchèque comme Alicia Dobie à San Siro. Un succès 4-2 des Milanais. On voulait vous montrer l'ouverture du score d'Olivier Giroud à la réception de ce ballon au deuxième poteau. Vous montrez le but de Ryan. C'est le but du 2-1 qui donne l'avantage aux Milanais juste avant la pause. Et puis on voulait vous montrer également le but de Pulisic, le but du 4-2 à la 85e minute de jeu sur ce try vraiment fabuleux de Rafael Leao. Il a fait tout le try et derrière il va servir Pulisic. Victoire donc de Milan.
Et à Siliane, Yacine Adli, titulaire encore. Beaucoup de Français sur la pelouse. Yacine Adli, petit à petit, il fait son trou. Il a galéré au Milan AC. Il a été très très longtemps pendant des mois et des mois remplaçant. Il fait son petit trou. Et franchement, il y a eu une extraordinaire interview dans l'équipe cette semaine. À suivre son parcours.
Bon, très bien. Il y a des gros qui passent parce qu'on a vu Liverpool, on voit Milan, il y a l'AS Rome également qui déroule à domicile. Raph, c'est
troisième victoire de suite pour les Romains de Daniele De Rossi, facile vainqueur de Brighton, 4-0. Regardez, un but à vous montrer parce que franchement, c'est l'homme en forme du côté de cette équipe de la Roma sur cette passe lumineuse. Le but de Paulo Dybala, c'est l'ouverture du score, l'international argentin qui revient très très fort sous les ordres de Daniele De Rossi.
Et passe de Paredes, me dit Midgilet dans l'oreillette.
Oui, c'est la passe lumineuse. Ce qui lui aussi est devenu un indéboulonnable de De Rossi.
Dybala, Non mais Dybala, c'est incroyable cette carrière, parce que là il est.
La Roma en général, c'est parce qu'il y a De Rossi qui a repris l'équipe et qui se porte beaucoup mieux, mais Dybala, il est vraiment à son meilleur niveau. Après, souvent le talent de Dybala n'a jamais été en question. C'était plutôt un joueur qui était gêné par les blessures, mais quand il est vraiment au top physiquement.
Qui a quasiment pas joué une minute, je crois, pendant la Coupe du Monde il y a un an et demi, qui marque sur un tir au but en finale, mais qui revient bien. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est que son agent a bien géré. Vu qu'il revient bien, il y a une clause de 15 millions d'euros, je crois, seulement, qu'un club pourrait activer dès la fin de saison. Donc c'est franchement une belle affaire, je trouve.
Et le triplé, son triplé extraordinaire contre le Torino il y a quelques semaines, le but contre Monza, le but hier, oui, il marche absolument sur l'eau.
Alors, il y a une équipe qui marche sur l'eau, elle, c'est l'équipe de Leverkusen. Et pourtant, ils ont eu chaud hier.
Face à Karabakh dans cette Ligue Europa, qu'ils avaient battu deux fois lors de la phase de groupe. Leverkusen n'est pas loin de concéder sa première défaite. Il a fallu attendre l'égalisation à la 92e minute de jeu du Bayern par Patrick Schick, l'international tchèque. Mais ils ont eu très chaud et ils ont évité la défaite, les hommes de Xabi Alonso.
Bon, il y a des superstars sur le plateau, évidemment, de l'équipe de Greg, mais il y a des superstars également à Miami parce que Messi et Suarez ont sauvé l'Inter Miami.
Ouais, c'est en Ligue des Champions, zone CONCACAF pour être tout à fait précis. C'était face à Nashville, score final 2-0. Ils étaient menés sur le score de 2-0 et ils vont revenir tout d'abord par Lionel Messi qui va relancer son équipe. Déjà l'enrouler, la passe de son partenaire. Et puis derrière, dans les derniers instants, c'est Busquets. Pour qui? Pour Luis Suarez. Il n'y a que des anciens Barcelonais dans cette équipe. Il y a Jordi Alba également. Et donc cette qualification, en tout cas ce match aller, bien engagé pour les hommes et les copains de Lionel Messi.
Les États-Unis, on y retourne tout à l'heure. Attention, le biathlon, ça approche maintenant à grands pas dans 20 minutes. C'est le début de la course, le relais homme. Juste, je voulais remontrer une image qu'on a vue dans le ZAP tout à l'heure. Vikash, je vais vous la remontrer parce que vous fassiez partager aux téléspectateurs votre avis. On voit les joueurs de l'Olympique de Marseille fêter, célébrer leur victoire 4-0. Et vous dites, attention.
Ils ne sont pas qualifiés. Enfin,
c'est ça, on célèbre normalement qu'on passe retour.
Ils ont le droit d'être contents, souriants, de crier. Mais de s'organiser et de taper, et puis de le relayer sur les réseaux sociaux.
Faut pas le faire, ça, c'est ça.
Ouais, c'est pas bien, même pour les adversaires, pour Villarreal.
Ça peut porter l'œil, non?
Évidemment.
Attention, ou alors ça peut motiver l'adversaire.
À 2-0, parce que ça peut arriver. Ouais. Ils sont menés 2-0 là-bas, Villarreal. Il faudra se souvenir de ça, parce qu'il va y avoir un petit moment de panique. C'est pas ce que je leur souhaite.
Très bien. Bon, voilà. Non, mais image, c'est intéressant. Nous, ça ne nous avait pas choqué. C'est intéressant d'avoir votre point de vue, vous.
Alors, en tout cas, on ne l'a jamais fait. Bon, après, on est souvent en train de perdre à la mi-temps du match.
Que les matchs retournent. Allez, c'est parti. Le replay, Antoine Pinot. Allez Antoine, on est vendredi, c'est replay, même s'il y a biathlon, vous êtes là, vous fidèle au poste, bien sûr.
C'est pas mal 20h, hein. On va rentrer chez nous avant la nuit, il fait nuit, mais voilà. Quoi.
Mais il fait jour aux États-Unis, vous allumerez la télé, il fera jour, vous voyez.
Je suis jet lag, moi, je voyage. Bon, tout le monde va bien? Ça va? C'est studieux, hein. Ils écoutaient Rafi vraiment religieusement.
Oui.
Mais il est passionnant, Rafi. Il est passionnant.
Il est passionnant.
Mais il est passionnant.
Hein.
C'est ce que me dit beaucoup ma femme.
Hein. Oui, oui. Oui, elle vous dit autre chose, mais on n'en parlera pas là, parce que c'est pas l'endroit.
Allez, écoute.
Allez, on va faire un petite revue de presse, comme on dit dans le milieu de l'équipe de Greg. C'est les infos avec un Z, jingle. Allez, c'est maison simple. Hier, Nabil Djellit est allé sur le banc. Il peut compter sur Karine Galli pour être soutenu.
Et hier, je suis désolé, évidemment qu'il y a pour moi rouge sur Vinicius. Mais est-ce qu'il n'y a que Vinicius qui marque dans cette équipe?
Non.
Est-ce que Bellingham... Mais il va se taire là-bas. Est-ce que Bellingham est capable de marquer? Oui.
Alors on rigole, mais Karine n'a pas arrêté de se marrer hier dans l'émission. Alors petit florilège, c'est cadeau. Nabil Djellit a essayé de parler de son jeu de mots dans un article. Gros succès. Hein.
Un jour, je vous raconterai le meilleur titre que j'ai fait, mais je pense qu'on n'a pas le temps.
Non, on va y aller. Vous allez, mettez-vous sur le côté, on va voir. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe dans 141 jours?
Les JO.
C'est les JO. Les JO.
Nabil, quand il propose une blague à Greg.
Non, pas là.
Au niveau de la technique, tout était nickel cette semaine. Paris, Ligue des Champions, déplacement à la Real Sociedad avec Joe Castaldi. On impressionne la concurrence télé.
Il y aura du monde, ça sera plein, mais est-ce que ça fait déjà du bruit? Est-ce que vous avez déjà de l'ambiance? Est-ce que ça monte en puissance? Plongez-nous dans cet avant-match. Alors, Giovanni, je vous ai perdu. On va essayer de rétablir la liaison dans un instant.
Ouais, bon, pas fou pour impressionner la concurrence. Heureusement qu'on n'est pas diffuseur historique des Bleus, hein, parce que franchement.
Premier corner pour l'équipe de France.
crustacés d'environ 2
cm. Ah, on aurait perdu du monde. Seb Tarrago est ce qu'on appelle un punchliner, la preuve.
Alors Vincent Duluc, j'adore lire vos éditos et je schématise, évidemment vous l'écrivez mieux que normalement ça va le faire, mais dans l'esprit il y a ça, et puis à chaque lendemain, le matin ou le soir à minuit et demi, il y a qu'avec eux que c'était possible. Ouais. Pourquoi est-ce que là vous êtes plutôt tendance presque?
C'est vrai qu'il l'écrit mieux.
Oui bien sûr, c'est la différence entre un barrage winner et une plume.
Ouais, c'est vrai que c'était pas clair. Peut-être reprécise, Grace, ce que tu voulais dire?
Non.
Il faut accepter le changement.
Nickel. Et Adrien Courrouble est très fort au jeu, alors il fait preuve d'arrogance et il a bien raison.
Il ne reste donc plus que Adrien et Johan. Eh, c'est pas facile à faire quand même. C'est hein. On n'est pas très très nuls.
Il y a Laurent Leroy.
Ah ouais.
Bah non.
Nickel. Ah, il a vraiment regardé.
Quel bonheur. Non, quel bonheur de le voir piégé quand même. Ah,
là, là. Moustachu, on peut le repasser en boucle.
Bon, bref.
J'ai pas aimé la fin.
Allez, on va faire un petit tour des chroniqueurs. C'est parti.
Attention. Oui, oui.
Attention. On l'adore. Elles arrivent du ciel. Elles animent nos semaines. C'est le bonheur. Jingle. Ouais. Alors Jim en plus qui était à côté de Karine Galli, alors niveau soutien c'était moyen. Hein.
Qui est ce joueur?
Mais t'es un...
Ah vous me faites un grand choix.
C'est Nyang.
Mais oui, Mamadou t'es Nyang, bien sûr. Mais comment tu peux pas voir Mamadou?
J'ai bloqué.
Ah non, je me suis
c'est son Mars, c'est l'Athlétique de Marseille.
Il joue encore en Turquie. Oui, oui. Michi Batshuayi. C'est une victoire pour la team Bruno. Bravo, 5 à 2. C'est assez clair, c'est assez net. Mais...
Nul à chier. Ouais.
Et alors, le plus rapide pour finir.
Avec Alicia.
Drogba.
Oui, Didier Drogba. Guingamp. C'est Chelsea. Je pense que Karine...
En plus, c'est tout, c'est de la nice.
Oui, mais attends, Le Mans.
Il y en a combien à Marseille qui ont commencé au Mans?
Alors, attends Karine, t'as oublié de lui dire un truc, je crois.
Ouais, voilà, c'est
une... Semaine de Ligue des Champions pour Paris, Seb Tarrago a parlé de Lucas Hernandez et alors moi ça m'a rappelé un sketch. Hein.
Son entraîneur lui reproche de ne pas être l'homme le plus sérieux au monde et de aimer
sortir,
balader la nuit. Donc ça peut laisser des traces aussi. Mais
cela ne nous regarde pas.
Joe Castaldi a pris ses précautions le lundi car c'est pas facile de suivre les compos de Luis Enrique cette année. Hein.
Lucas Hernandez pourrait être sur le banc, mais il a tellement pas aimé ma question, Luis Enrique, la dernière fois sur Lucas Hernandez, qu'il est capable de le remettre et de remettre Beraldo à gauche et Nuno Mendes sur le banc. Les gens pourront dire que je suis nul, ils seront contents.
Oui, alors bon, effectivement, Lucas Hernandez a débuté le match, mais on va pas t'insulter, Joe, allez, la région. Oh, la région. Et alors, mardi, Raph, t'as fini sur le banc. Alicia Dobby nous a régalé derrière. Excellent moment.
Dave, l'Inter se rapproche du Scudetto, Dave.
Et oui, l'Inter, l'équipe la plus en forme en Europe, s'est imposée contre le Genoa. 15 points d'avance sur son dauphin. Bon, autant dire qu'il va être champion.
J'ai l'impression qu'on va mettre quelqu'un au chômage. Alicia, on a la suite, non?
On va laisser faire les pros. Oh,
drop the mic. Attendez. Faites-moi un drop the mic, mais le faites pas tomber, il coûte de l'argent. Allez-y, faites un drop the mic.
C'est quoi ça? Bah, c'est...
C'est quoi ça, drop the mic? Mais vous parlez 45 mangues!
C'est ça, ouais.
C'est une vieille personne.
Ah ouais, c'est une maman.
C'est quoi ça?
Elle a acheté comme ça.
Ou trop jeune.
Peut-être.
C'est vous. Mais non, peut-être trop jeune en fait.
Non, trop vieille.
Non, trop vieille, c'est sûr.
On va pas partir sur cette option. Même si on l'embrasse, Alicia. Hop là, le micro. On s'éclate. Ou elle a fait Philippe Risoli un petit peu en même temps. On embrasse Philippe Pézoli. Allez, on termine par un petit sajou, ça se ping-ping entre chroniqueurs et on fait le bilan. Bah tiens, justement, à la suite de ce mort, Raph Sebaoun, t'as pris une petite cartouche de Vincent Duluc.
Ça respire quand même pas la super santé, le Bayern.
Ah, je crois que c'était Raph.
Non, c'est les Raph, c'est un mardi ressenti vendredi pour lui. C'est normal.
Bon, heureusement, Seb Tarrago est venu te réconforter. Hein.
C'est notre petite Dora l'exploratrice à nous, toujours jeune. Bonsoir, Raphaël Sebaoun.
Il est 40 piges.
Mais vous ne les faites pas.
Vaut mieux le filmer de face que de dos.
Oui, j'ai failli déraper.
Oui, car Raphi, sale semaine carrière, petit problème en fin d'émission, tu as dû t'absenter. Bon, on va pas en parler en régie, on enchaîne, s'il vous plaît. Oh. Très drôle. Benoît Trémoulinas balance de plus en plus de vannes avec David Padoue.
On est d'accord que c'est l'an 1 du PSG qui risque rien, donc Benoît, Luis Enrique s'y perd ce soir.
Oui, mais ne jamais jurer.
Vous êtes Benoît, vous, c'est vous, quand j'ai dit Benoît.
Vous me regardez, frère.
Non, je vous... non, non.
Ah si, si, vous avez fait une face aveugle, là. Vous me regardiez dans les yeux.
Vous êtes hypnotisé par
les yeux,
je n'ai aucun rapport. Benoît.
C'est mon grand frère.
Des chroniqueurs que Greg sait toujours mettre en avant, comme toi, Karim, l'autre jour.
Bonsoir, Greg. Bonsoir à tous, ça va très très bien.
À vos côtés, Karim Benali. Bonsoir, Karim.
Bonsoir, Greg.
La bonne imitation d'Alicia. Attention à voir si Bruno peut tenir la triplette. Bonsoir, Bruno.
Bonsoir, Greg.
On a la team gentille de nous à ma droite.
Non, mais ça va. C'est Alicia qui nous a tout appris.
Ah, c'est sympa. On passe à Nabil Djellit, notre dieu à tous, les jeux de mots.
C'est un pari plein de panache, parce que franchement, c'est
les
pas
gars
gagné.
Sont jamais mieux servis que par eux. Tout le monde s'aurait des fleurs.
Ça aurait été Monaco, ça aurait été un pari plein de panaché.
On voit pas sur le banc.
Faire pari bête et méchant.
Ça n'existe pas. Oui.
Non, parce... Et puis avec 50 000 euros, le puits, ils refont surface, hein, direct.
Oui, magnifique.
C'est un jeu. Et en cas de victoire de Brest à Lens, je peux vous dire que c'est un vrai coup de tonnerre pour le club.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous avez bien fait un jeu de mots sur Karine.
Karine, on se calme. Et Yoann Rioux, bah, t'es commentateur sur la chaîne, mais tu n'en as pas fini, visiblement.
À vos côtés, c'est vous qui avez récupéré les éboulons. Il a légèrement dévié. Lundi, il sera à votre place, visiblement, par rapport à hier.
Et bientôt,
Yoann Rioux, bah, écoutez, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite.
Dans
10 heures, si vous voulez, je suis en vacances après.
Dans 10 ans, il s'est freiné lui-même.
Ouais, ben voilà. Ben bravo.
Est-ce que je me casse?
Oui. Bon.
Je vous garde la voiture et puis...
Ah, voilà. Moi, L'américain de service.
Ah, il n'est pas là-bas.
Parce qu'on va tout de suite passer la main évidemment au biathlon. Vous l'avez dit, c'est une soirée événement ce soir avec du biathlon en prime time. Le relais homme. Voilà, mais Saoud, venez ici sur le plateau.
Et la vérité est au bout du couloir.
Ouais, c'est ça, il n'y a que la vérité qui compte.
Le Saoud est sorti. Ben voilà.
Tu ressens un
peu. Ouais, ouais. Ça y est, le Saoud, on y est.
Ben on y est, on file aux States, comme dit Jeanne Richard, la petite jeune de l'équipe de France de biathlon. Il y a un sentiment très particulier. On est très curieux de vivre du biathlon le soir. C'était déjà le cas il y a 4 ans, mais les conditions étaient un petit peu spéciales. Là, tout est réuni. Il y a de la neige, il y a du vent, la neige est dure. Le suspense est incroyable.
Et nous, on veut savoir si les Français sont dans le coup là ce soir.
Les Français sont dans le coup, bien sûr. On commence avec le relais homme, avec un relais, tiens, un peu particulier. On vous explique tout. Et puis après, il y a le sprint femme, avec donc le classement général qui se joue en partie ce soir. Il y a 5 courses individuelles encore, mais le sprint de ce soir, il sera déterminant et on va accompagner tout ça.
Bon, eh ben écoutez, voilà.
On a le biathlon au petit-déj de tôt le matin. Ouais. On avait le biathlon au déjeuner, le poulet frites du midi et le dimanche. Il y avait le biathlon le goûter et là on a le biathlon le soir pour le dîner.
Le vendredi soir en famille.
Conditions dantesques.
Il fait très très chaud, mais ça vous donne.
Absolument.
Donc là, c'est du jamais vu même.
C'est du jamais vu. Never.
On vous l'a dit, c'est parti. C'est les États-Unis ce soir qui s'invitent chez vous, donc avec le biathlon soirée. Bah, très grosse soirée, on vous regarde évidemment et vous prenez la main juste après une courte pause, c'est ça?
Très courte
pause. Toute petite.
Une vraie courte pause.
Greg sera là de retour à partir de lundi, bien entendu. C'est parti pour le biathlon.